Merci d'être venu avec cette météo un petit peu humide et d'être venu aussi nombreux cet après-midi. Merci au président, mon ami Yves, pour avoir organisé cette conférence et donc ce qui me permet d'être avec vous aujourd'hui. Merci aussi pour la visite de Saint-Marcel hier, qui était extrêmement intéressante. Effectivement, c'est la première fois que je visite Saint-Marcel. J'ai visité de nombreuses centrales nucléaires partout dans le monde, en France et dans de nombreux autres pays. J'ai également visité de nombreuses usines nucléaires d'une manière générale, mais Saint-Marcel, c'était la première fois. Donc c'est extrêmement intéressant et instructif, bien sûr. Merci aussi à Jean-Louis Brûlé, qui nous a montré tout à l'heure la maison NIPS. Fascinant, le berceau de la photographie, le vrai berceau de la photographie. Ah, c'est le film. Ok, alors, attends, on va le sortir complètement. C'est mieux comme ça? Ok, parfait. Donc, en bref, merci à l'UTB de rendre cette conférence possible aujourd'hui. Alors, le sujet de mon intervention, c'est donc le nucléaire, avenir de l'écologie, puisque comme nous allons le voir, il y a souvent quand on parle de nucléaire, on a tendance à opposer ça à l'écologie, alors qu'en réalité, et c'est ce que nous allons voir plus en détail, il y a d'excellentes raisons d'être pour le nucléaire du point de vue de l'environnement et de l'écologie, parce que c'est une source d'énergie tout à fait formidable et qui a de nombreux avantages. Donc on va parcourir un certain nombre de sujets, c'est assez large. Donc je vais vous expliquer d'abord comment je suis venu en tant qu'écologiste au nucléaire, ou en tant que pro-nucléaire à l'écologie, ça marche dans les deux sens. On parcourra un petit peu le domaine de l'énergie d'une manière générale, avec aussi quelques mots sur l'éolien, le solaire, les domaines où on consomme beaucoup d'énergie, donc la construction, les voitures électriques. Donc pour ma part, j'habite une maison passive et positive en énergie, j'habite en région parisienne à Houille, dans le 78, proche de Paris. Et donc je vous raconterai un petit peu quelques mots sur tout ça. Ensuite, donc plus en détail sur le nucléaire, avec bien sûr les réacteurs, le combustible, comment ça fonctionne, les déchets, la radioactivité qui en réalité existe absolument partout dans la nature. La radioactivité, c'est naturel, donc il n'y a pas lieu d'en avoir peur, c'est simplement qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop, bien sûr. Voilà quelques mots sur l'hydrogène, les arguments habituels contre donc Tchernobyl, Fukushima, maintenant Zaporizhzhia. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire dans la situation où on est aujourd'hui? On voit qu'encore hier, le gouvernement a annoncé qu'il allait augmenter le prix de l'électricité avec une nouvelle taxe qui va coûter en moyenne 358 euros par famille française sur le prix de l'électricité. Donc ça doit rapporter 6 milliards pour boucher le nouveau trou qui continue à se creuser, comme d'habitude. On ferait mieux d'économiser plutôt que de rajouter ça. Le prix de l'électricité aurait dû baisser. Mais puisque ça a baissé sur le prix du marché spot, mais au lieu de baisser le prix pour les consommateurs, ils vont maintenir le prix élevé et nous faire payer la différence avec une taxe. Voilà. Alors que ce qu'il faudrait, c'est au contraire l'inverse, c'est rendre l'électricité encore plus accessible pour tous, parce que c'est la clé en réalité de l'avenir, pas seulement pour nous, mais pour toute l'humanité. L'énergie, c'est ce qui fait tout fonctionner dans la société, c'est ce qui fait tourner bien sûr les moteurs de nos voitures, mais aussi à la maison. Nos frigos, c'est ce qui permet de nous amener notre nourriture, c'est ce qui permet de se chauffer, c'est ce qui permet de fabriquer tous nos vêtements et tous les biens de consommation qu'on utilise, et c'est ce qui fait fonctionner toute la société d'une manière générale. C'est ce qui nous permet de vivre aujourd'hui, au XXIe siècle, l'époque la plus formidable de toute l'histoire de l'humanité. On peut instantanément téléphoner à un ami qui habite en Australie, ou aller passer ses vacances ailleurs en France, ou même ailleurs dans le monde, même de l'autre côté des océans, et tout ça, ça repose en fait sur notre consommation d'énergie. Et c'est pas si ancien que ça. Je me souviens de ma grand-mère, quand j'étais petit, qui en faisait chauffer l'eau pour prendre le bain dans le chalet à la montagne, dans la cheminée. Et puis on prenait son bain comme ça. C'était il y a 2-3 générations. C'est pas si ancien que ça. Ça n'a pas toujours été comme le mode de vie qu'on connaît aujourd'hui. Et suivant les décisions qu'on prend, ça risque de ne pas rester longtemps comme c'est maintenant. C'est-à-dire qu'on a un niveau de vie incroyable, on a beaucoup de chance, on ne s'en rend même pas compte. Il faudrait faire en sorte que ça dure en prenant les bonnes décisions. Et quand on voit parfois certains de nos dirigeants, ce n'est pas toujours le cas. Ils crachent un peu dans la soupe et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, on a une chance formidable et qu'il faut continuer à entretenir et à pousser cette chance. Voilà, et donc je ferai un certain nombre de recommandations sur l'avenir, notamment ce que j'appelle le plan 100 gigawatts, puisque le but c'est de sortir du pétrole. On n'a pas beaucoup de pétrole en France. On voit bien que la géopolitique internationale c'est de plus en plus compliqué. Et donc si on veut s'en sortir, en fait, il faut, pour faire simple, tout faire ou le plus possible avec de l'électricité. Et cette électricité, il faut la fabriquer chez nous. Et quand on regarde combien il en faut, ben, c'est 100 gigawatts, parce que c'est 102 gigawatts, c'est le record de consommation électrique en France en février 2012, au moment du pic de froid en février. Et c'est le record historique, 102 gigawatts exactement. Mais comme on va devoir faire les voitures électriques, les objets connectés, et qu'on multiplie les applications d'électricité, d'une manière générale, il va en falloir plus que ce qu'il nous faut aujourd'hui. Donc le nucléaire, qui aujourd'hui est à 63 gigawatts, eh bien, il faudrait le monter à quelque chose entre 80 et 100 gigawatts. 100 gigawatts, c'est l'hypothèse optimiste, où on réindustrialise un petit peu la France. 80 gigawatts, c'est l'hypothèse pessimiste, où on reste un peuple plutôt pauvre, et on devient plutôt un peu à la traîne, mais il nous faut quand même 80 gigawatts, c'est-à-dire une augmentation significative par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais on va voir ça plus en détail. Et les conclusions, bien sûr, le nucléaire, c'est l'énergie du futur. En fait, on n'a pas vraiment le choix. C'est ce que disait Giscard dans les années 70. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées et on a du nucléaire. Voilà. Donc habituellement, on a tendance à opposer le nucléaire et l'écologie, mais comme on va le voir, il y a de très bonnes raisons d'y être tout à fait favorable. Alors là, vous voyez mes premiers pas en tant qu'écologiste. À l'âge de 1 an et demi, je savais à peine marcher, dans la jungle, au Gabon. Donc mon père était géologue pétrolier, et là vous me voyez donc dans les bras de ma maman faisant mes premiers pas dans la nature, dans la jungle gabonaise. Voilà. Ensuite, j'ai fait des études polytechniques, comme a dit Yves. Ensuite, mon service militaire, c'était sur un aviso escorteur de la Marine nationale au détroit d'Ormuz, zone dont on parle beaucoup ces jours-ci, parce qu'effectivement, il y a un grand danger. Alors, ce n'est pas nouveau, puisque 1980, quand j'étais sur ce navire de la Marine, c'était déjà exactement le même problème qu'aujourd'hui. Il y avait la guerre Iran-Irak. Aujourd'hui, c'est Iran-Israël, enfin, c'est pas très différent. Et l'Iran menaçait tous les jours de bloquer le détroit d'Ormuz, par où transitait à l'époque plus de la moitié du pétrole consommé dans le monde moderne, en Occident. Aujourd'hui, ça a un petit peu baissé. C'est 30% du pétrole moderne qui transite par le détroit d'Ormuz. C'est quand même beaucoup et ça peut très gravement perturber notre mode de vie moderne. On va en reparler. Donc j'ai aussi enseigné la planche à voile dans mes hobbies. J'ai donné des conférences comme celle que je vous fais aujourd'hui un petit peu partout dans le monde. Et là, vous me voyez avec un ami qui est Patrick Moore, qui est fondateur de Greenpeace en 1971 en Colombie-Britannique. Donc une des grandes figures écologistes, on en reparlera aussi. Voilà, donc j'habite donc à Houille. Vous voyez ici ma maison à droite avec ma première voiture électrique qui était la Renault Zoé en 2012. C'était la première Renault Zoé, j'étais le premier client en France, donc j'en suis très fier. Et puis ma maison donc est passive, positive en énergie, qui consomme substantiellement beaucoup moins d'énergie qu'une maison normale, mais avec tout le confort et en émettant beaucoup, beaucoup moins de CO2. Et là vous voyez donc les panneaux solaires qui sont sur le toit de ma maison. Ça, c'était mon premier programme de panneaux solaires que j'ai fait en 2010. Et qui produisait déjà plus d'énergie que ma maison n'en consomme. Mais comme j'ai eu la voiture électrique en 2012, pour rester positif en énergie, j'ai rajouté d'autres panneaux solaires au fond du jardin. Donc je suis ce qu'on appelle un citoyen positif en énergie. C'est mieux qu'une maison positive, puisque je suis positif en énergie. Transport inclus en comptant la voiture, travail inclus, puisque je travaille chez moi. Et donc je suis globalement un citoyen ou une famille positive en énergie. Un nouveau concept, hein. Donc, mon service militaire m'a donné l'occasion de réfléchir aux questions d'énergie, puisque, comme jeune étudiant à Polytechnique, il faut choisir son corps d'armée. Donc, comme il y a beaucoup de marins dans la famille Combi, mon grand-père était chirurgien dans la marine, mon arrière-grand-père était inspecteur général de la marine. Donc, j'ai choisi la marine. Et j'ai cru partir pour une croisière exotique dans l'océan Indien. C'est pour ça que j'avais choisi ce bateau, l'aviso escorteur Amiral Charner, ici. Et en fait, le programme a changé parce qu'il y a eu un coup de sifflet du président de la République. À l'époque, c'était encore Giscard, donc 1980. Et l'Iran menaçait de bloquer le détroit d'Ormuz. Donc le bateau où je croyais que j'allais faire de la représentation française dans l'océan Indien, ça c'est très sympa. La représentation, on fait une escale à Madagascar. Ça dure une semaine. On fait une réception de l'ambassadeur sur le bateau. Ensuite, l'ambassadeur vous reçoit à l'ambassade. On fait la fête. Et puis ensuite, on va à Mombasa, au Kenya. On refait la même chose. Puis à l'île Maurice. On fait tout le tour de l'océan Indien comme ça. C'est pour montrer la puissance française à l'étranger. Donc ça, c'est très sympa. C'était ce que je pensais que j'allais faire pendant un an. Et en fait, donc, changement de programme, coup de sifflet, on monte vers le nord, on passe à Djibouti. Donc les marins sont très contents de Djibouti parce que ça donne droit à la solde de Djibouti, hein, puisque le dernier port touché, vous avez des primes en fonction du pays pour les militaires. Et donc Djibouti, c'est la meilleure prime du monde entier parce que c'est l'endroit le plus chaud et le plus désagréable de la planète du point de vue de météo, climat, etc. Donc on est parti du coup droit sur le détroit d'Ormuz où finalement j'ai navigué pendant un certain nombre de mois pour garder libre la circulation donc des pétroliers. Exactement le même problème qu'aujourd'hui, en fait, ça n'a pas changé. Voilà. Et donc, le but, c'était de garantir la sécurité des supertankers. Donc, sur le plan énergétique, actuellement, 20% de la population consomme la majorité de l'énergie, environ les deux tiers. Donc, vous voyez là une photo de la planète la nuit. Évidemment, toute la planète n'est pas dans l'obscurité en même temps. Donc, ce n'est pas une photo instantanée. C'est une photo reconstituée à partir des photos prises, où on enlève les nuages avec les techniques numériques. Et plus c'est blanc, et plus on consomme d'énergie. Donc, on voit tout de suite qu'on a trois grands pôles de consommation d'énergie sur la planète. L'Amérique du Nord, l'Europe, et puis l'Asie du Sud-Est. On voit aussi qu'il y a deux zones qui sont relativement dans le noir, c'est l'Amazonie et l'Afrique, puis l'Australie qui est très peu peuplée, sauf sur la côte pacifique. Et donc, cette situation qui est qu'un petit pourcentage de la population consomme toute l'électricité, évidemment, ce n'est pas viable à très long terme, puisque les 80% restants, ils aspirent à avoir le même mode de vie que nous. Donc, à un moment donné, ça conduit à produire beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Ici, on voit l'augmentation de la consommation d'énergie avec le temps depuis le milieu du 19e siècle. Donc, cette consommation d'énergie a été... donc, ça, c'est la population donc, qui a monté jusqu'à 7 milliards d'habitants aujourd'hui. On prévoit en 2050 environ 10 milliards d'habitants. Donc, cette consommation d'énergie augmente le besoin en énergie qui a déjà été multiplié par environ 100 en un peu plus d'un siècle. Donc, on voit bien que cette consommation d'énergie, elle n'est pas stable. Elle n'est pas linéaire non plus, elle a énormément monté. Et en France, elle tend maintenant à stagner, voire à diminuer. Et ce n'est pas forcément bon signe du point de vue du mode de vie et du niveau de vie. Parce que le niveau de vie, en fait, est proportionnel à la consommation d'énergie qu'on consomme. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de gaspiller, mais de bénéficier de cette énergie. Voilà, donc actuellement, la consommation augmente rapidement dans les pays en développement. Elle augmente plus chez nous. Mais c'est pour comprendre qu'au niveau global, on va avoir besoin d'encore beaucoup plus d'énergie qu'aujourd'hui. Et donc, on va voir avec quoi on peut faire cette énergie. Donc là, vous avez la consommation d'énergie par habitant dans un certain nombre de pays. Donc les champions de la consommation d'énergie, c'est les Américains, bien sûr. Vous avez l'Australie qui est à peu près au même niveau. La France et la Grande-Bretagne, on est environ la moitié. Le Japon, pareil. Et puis, vous avez des pays comme l'Inde ou le Bangladesh, où on consomme beaucoup, beaucoup moins, environ, comme ordre de grandeur, 10 fois moins qu'un Français ou 20 fois moins qu'un Américain. Alors, cette énergie qu'on consomme, aujourd'hui, c'est essentiellement des énergies à base de carbone. Donc, le charbon, il y en a trois. Charbon, gaz et pétrole. À eux trois, ils font 80-85% de l'énergie totale consommée par l'humanité. Et puis, on en a deux qui sont plus petites, qui sont l'hydraulique et le nucléaire, qui représentent de l'ordre de 5% chacun, pour faire simple. Et puis, vous avez les énergies nouvelles, donc solaire, éolien, géothermie. Alors, ce slide est un peu ancien, là, je l'avais fait il y a une vingtaine d'années. À l'époque, c'était moins de 1%. Aujourd'hui, c'est un peu plus que 1% quand même. Mais ça reste une proportion extrêmement faible de l'énergie totale. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir remplacer vraiment le pétrole et le gaz par des énergies intermittentes? Pour l'instant, c'est très loin d'être gagné encore, notamment à cause de l'intermittence. Et l'énergie principale, ça reste le pétrole. Et le point le plus sensible, le talon d'Achille de l'humanité, c'est cet endroit, le détroit d'Ormuz, que vous voyez là. Alors, l'épaisseur des traits est proportionnelle au transit de pétrole Voilà, donc en bleu, vous avez le pétrole et en rouge, c'est le gaz. Donc vous voyez par exemple qu'il y a pas mal de gaz qui venait, alors c'est pareil, c'est un peu ancien, mais le gaz venait de la Russie pour venir vers l'Europe. Et puis vous en aviez aussi qui allaient au Japon. Donc au Japon, ils importent tout, hein, ils n'ont rien, c'est comme la France. Donc ils importent du gaz, ils importent du pétrole. Et ce pétrole, la grande source de production qui représente aujourd'hui un tiers du total, autrefois c'était la moitié, ça a un petit peu diminué, mais ça va réaugmenter parce que la plupart des réserves restent concentrées dans cet endroit-là. Donc c'est une pétrolière, pas très sympathique, pas forcément amie. Donc le détroit d'Ormuz, c'est un point particulièrement sensible qui, pour l'instant, n'a pas connu les blocages qu'il pourrait connaître et dont on est menacé depuis maintenant presque un demi-siècle, 1980, c'était il y a presque 50 ans déjà. Donc c'est un endroit chaud et qui, un jour, tôt ou tard, va nous exploser à la figure, en fait. Parce que ce n'est pas des amis, parce que on n'est pas dans un monde de bisounours, et que jusque-là, tout va bien, et par le pouvoir, par la puissance des militaires américains, on a réussi à garder ce transit du pétrole, mais ça ne va pas durer éternellement, notamment à mesure que, en 1974 et 1980, premier et deuxième choc pétrolier, l'Europe a compensé en diversifiant ses sources d'approvisionnement, parce qu'il y a aussi du pétrole, par exemple, au Venezuela, ici. Vous avez du pétrole en mer du Nord, qui commence à s'épuiser. Vous avez du pétrole qui vient d'autres sources, un peu d'Afrique. Il y a eu le Gabon, où j'ai vécu. Mon père était géologue, donc pétrolier. Son métier, c'était de chercher le pétrole. Mais toute mon enfance, on déménageait tous les 3 ans. Parce que quand on a trouvé le pétrole dans un pays, il faut vite déménager pour aller le chercher dans un autre. Parce qu'au bout de quelques années, les puits de pétrole, ils sont vides. On pompe, et puis quand il n'y en a plus, il faut aller ailleurs. Et donc tout ça, ce n'est pas éternel. On a déjà pomper plus de la moitié des ressources de pétrole de la planète. Alors on va voir les slides suivants. Donc là, on voit l'évolution du prix du pétrole, qui au début était pas cher, parce qu'il suffisait de pomper pour en avoir. Et on n'avait pas touché la limite physique encore. Et puis après, premier choc pétrolier, 1974, donc c'est là qu'on a construit en France l'usine de Saint-Marcel. Vous voyez, ça correspond à la même date, parce que on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'énergie, donc on a décidé de jouer la carte des économies d'énergie, des énergies renouvelables et du nucléaire. Donc il y avait 3 solutions qui ont été décidées dans le même jour, dans le même Conseil des ministres. Si on résume, on peut dire que nucléaire, ça a été un immense succès, qui sert d'exemple au monde entier aujourd'hui. La France a démontré à la planète entière que le nucléaire, c'était une énergie sûre, propre et qui résout le besoin. Les économies d'énergie, je dirais que c'est un demi-succès, c'est quand même utile, mais ça ne résout pas le problème en soi. On a quand même besoin d'énergie, même quand on l'économise. Et puis par contre, les énergies renouvelables, on peut dire que ça a fait une sorte de gros flop, puisque aujourd'hui, ça représente toujours à peine 1%, 2%, 3% de l'énergie consommée par l'humanité un peu partout. Et même en France, c'est pas beaucoup plus. Voilà. Ensuite, on a le deuxième choc pétrolier 1980, c'est la guerre Iran-Irak. Donc c'est là que moi j'étais sur la vis escorteur Amiral Scharner pour vérifier que les pétroliers passent toujours au détroit d'Ormuz. Puis le prix du pétrole a dégringolé. Ça correspond aussi à la montée en puissance du programme nucléaire français, accessoirement. Voilà, c'est resté assez bas. Et puis à partir de 2008, on a de nouveau des problèmes financiers, économiques et internationaux qui commencent à se manifester. Et là, on est de nouveau maintenant dans une nouvelle crise pétrolière, crise mondiale, où on voit bien que la géopolitique, pour faire simple, ne nous est pas forcément très favorable. Et de ce point de vue-là, la France est très, très protégée par les bons choix qui ont été faits dans les années 70 et dont on bénéficie encore aujourd'hui, malgré les parfois mauvais choix de nos dirigeants politiques successifs, surtout ces 20 dernières années. Et malgré tout, comme il faut longtemps pour changer les infrastructures énergétiques, ils n'ont pas réussi à balayer. Donc on est passé entre les gouttes, juste comme il faut. On a beaucoup de chance. Parce que si on avait dû lancer le programme nucléaire avant, on ne disposait pas encore des réacteurs à eau sous pression qui ont permis de faire le job jusqu'à maintenant. Et si on attendait après, on se butait le nez sur les antinucléaires comme en Allemagne qui nous empêchent de tout faire. Donc on est passé entre les gouttes en France juste au bon moment pour faire le programme nucléaire, qui aujourd'hui encore nous permet d'être dans une position économique pas trop défavorable malgré des mauvais choix. Alors là, vous voyez le taux de de ce qu'on appelle de dépression du pétrole. Donc c'est la quantité de réserves. Oui, c'est la dépression, donc c'est la quantité de pétrole qu'on a déjà pompé par rapport aux ressources facilement exploitables dans chaque pays producteur de pétrole. Donc vous avez la liste des différents pays qui produisent le pétrole en bas, Iran, Irak, Algérie, Indonésie, etc., Venezuela. Et puis vous avez le taux qu'on a déjà exploité. Donc on voit que dans certains pays, comme en Indonésie, on a déjà exploité plus des trois quarts du pétrole qui est disponible dans cette zone-là, dans ce pays. Ça date de 2004, hein, donc bah, aujourd'hui, en fait, il faut rehausser un petit peu dans chaque pays. Donc en Indonésie, ils ont presque pompé tout le pétrole qu'ils peuvent facilement produire. Il en reste un peu, mais de moins bonne qualité et plus cher. Voilà. Dans beaucoup de pays, c'est autour de 50%. Vous voyez qu'on est en moyenne, on est là, à peu près. Donc l'humanité a déjà brûlé la moitié du pétrole qui était disponible en moins d'un siècle, hein, principalement sur le dernier demi-siècle. Donc ce n'est pas une ressource très soutenable à long terme. En une demi-génération, la durée de vie d'un homme, c'est grosso modo une centaine d'années, donc en une demi-génération, on a brûlé la moitié de la ressource. Ça veut dire que globalement, en une génération ou deux, on est en train de tout brûler. En fait. Or ce pétrole, il a fallu dans la nature 100 millions d'années pour qu'il se fabrique naturellement. Donc on est très loin d'un mode de vie soutenable. On circule tous encore, ou pour beaucoup, à part moi, dans des voitures à essence. On a tous encore des chaudières au gaz, souvent, quand ce n'est pas du fioul. Mais ce monde-là, en fait, on croit que c'est notre mode de vie normal, on a l'impression que c'est stable, que c'est pour toujours. En fait, ce n'est pas stable du tout. Ça peut disparaître assez vite si certains pays décident de nous couper le robinet. Voilà. Et il y a des pays qui ont plus de pétrole ou qui l'ont moins exploité jusqu'à maintenant, comme l'Irak ou le Koweït, où il en reste encore de l'ordre des trois quarts. Et puis si on accepte de le payer plus cher, à ce moment-là, on peut en trouver plus, mais il est plus cher. Tout ce pétrole qu'on brûle, qu'on prend dans les entrailles de la Terre, dans les pays où il en reste beaucoup, on le brûle, ça fait du CO2 et on l'envoie dans l'atmosphère. Et là, ça contribue à donc au pouvoir de réchauffement global. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre, ce n'est pas le seul, il y a aussi le méthane, le gaz. Donc les fuites de gaz sur les gazoducs, ça contribue fortement aussi au réchauffement climatique. Et donc tout ça, eh bien, ça change la composition chimique de l'atmosphère. Moi, je suis né en 300, je crois que c'est 337 ppm de mémoire, ou 320 quelque chose ppm. Vous savez, c'est la dernière mode, on ne donne pas sa date de naissance, on donne son nombre de ppm. Voilà, et aujourd'hui on est à 420 et quelques ppm. Donc on s'est passé de 320 à 420 depuis que je suis né. C'est pas négligeable comme augmentation. Ça veut dire qu'on change la composition chimique de l'atmosphère. C'est quand même l'air qu'on respire. Alors heureusement, ce ppm, c'est parti par million, c'est pas beaucoup. Mais ce CO2, il prend la place de l'oxygène dans nos globules rouges, enfin, ça change les choses. À partir de 600-800 ppm, les gens qui ont une respiration un peu limite, les asthmatiques ou les subasthmatiques, ils ont du mal à respirer à partir de 800 ppm. Et dans les bâtiments publics, c'est interdit d'avoir plus que 1000 ppm de CO2. Donc on voit qu'on s'en rapproche, on est déjà passé de 300 à 400. Là. Alors, on vit quand même une bonne époque, parce que s'il n'y avait pas de ppm du tout, c'est pas bon non plus, parce qu'on se nourrit des plantes qui se nourrissent du CO2. Et donc s'il n'y a plus de CO2, il n'y a plus de plantes, donc on ne pourrait pas vivre non plus. Donc la question c'est, quel est le taux de CO2 qui est optimal pour pouvoir nourrir les plantes dont on se nourrit et nous ne pas être trop malades quand même parce qu'il y a trop de CO2. Et donc la réponse c'est qu'en fait on vit une époque absolument fantastique, c'est exactement le taux qu'on a aujourd'hui, 400. Parce que si vous êtes inférieur à 200 ppm, il n'y a pas assez de CO2 pour que les plantes puissent croître et s'épanouir suffisamment. En dessous de 100-150 ppm, il n'y a plus de plantes du tout. Ça ne suffit pas pour qu'elles poussent. Donc, il faut être au-dessus de 200 pour que les plantes puissent s'épanouir et il faut être en dessous de 600 pour que l'humain ne soit pas trop gêné, ou les mammifères. Donc, ben, entre 200 et 600, on va dire comme il faut que nous, on puisse vivre, mais que les plantes dont on se nourrit vivent aussi. On va se mettre au milieu de la fourchette, ça fait 400. Donc on ne vit pas l'époque la plus malheureuse de l'histoire de l'humanité. En fait, du point de vue du CO2, on a le taux idéal presque de CO2. Il ne fait pas trop froid, le climat est quand même sympa, et il y a plein de plantes qui poussent partout qui permettent de se nourrir. Donc finalement, on vit plutôt une bonne époque. Alors après, bien sûr, il ne faudrait pas que ça monte jusqu'à 800, 1000 et plus dans la nature, parce que là, vous auriez à l'extérieur le taux de CO2 qui aujourd'hui est interdit dans les bâtiments pour respirer normalement. Donc on vit pour l'instant une époque plutôt sympa, mais il faut veiller à ce que ça dure. Donc au cours du XXe siècle, la température, on est dans une période de réchauffement. Alors, ce n'est pas forcément un drame en soi que le climat se réchauffe, parce que le climat n'a jamais été stable, en réalité. À toute période de l'histoire, soit le climat est en train de se réchauffer, ou il est en train de se refroidir. Il y a même des cycles où ça se réchauffe, puis ça se refroidit. Donc ce n'est pas une catastrophe en soi, le fait que ça varie un petit peu. Mais ça a chauffé donc de un peu moins d'un degré au cours du XXe siècle. Au cours du XXIe siècle, on nous parle de températures qui pourraient se réchauffer de l'ordre de quelque chose entre 2 et 5, 6 degrés. Donc c'est pas forcément un drame non plus, mais c'est quand même de nouveau significatif. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passait si on arrêtait, imaginons que l'homme réussisse à arrêter tout d'un coup à consommer du pétrole et du gaz, on n'en consomme plus du tout, du jour au lendemain. Bien, le climat continuerait à se réchauffer pendant environ un siècle à cause du CO2 qu'on a déjà émis dans l'atmosphère et qui s'y trouve. Parce qu'il faut très longtemps, ensuite, une fois que le CO2 est dans l'atmosphère, pour qu'il soit progressivement redigéré par les écosystèmes qui se redéposent dans le fond des océans, etc. Donc, de toute façon, le climat va vraisemblablement continuer à se réchauffer, même si on arrête de conduire des voitures et de brûler du pétrole. Il y a une grande constante de temps. Donc, si le réchauffement climatique est une grosse catastrophe, il est extrêmement urgent d'agir. Il ne faut pas attendre que l'air ne soit plus respirable pour commencer à faire ce qu'il faut. Donc, voilà l'évolution du taux de CO2 dans l'atmosphère depuis le XVIIIe siècle. Donc voilà, moi je suis né en 1960, donc c'est par ici, hein, je crois que c'est 317 ppm. Voilà, et aujourd'hui, on est 2025, on est même à 420. Là encore, c'est un slide que j'ai fait il y a assez longtemps, une vingtaine, 25 ans. Je n'ai pas fait évoluer beaucoup la présentation. Parce que tout ce que je disais il y a 25 ans, c'est encore vrai, et même encore plus vrai qu'à l'époque. Voilà, et puis bon, ça va continuer à augmenter. Après, on ne sait pas jusqu'à combien. À partir de là, c'est des hypothèses. Hein. Voilà, et ça continue à augmenter. Alors, là, c'est une photo reconstituée, pareil, puisqu'on a enlevé les nuages, de la calotte glaciaire du pôle Nord. Donc, j'ai grandi toute mon enfance au Canada. Et à l'époque, ici, vous avez donc le nord, les îles au nord du Canada, le Groenland. C'est une calotte glaciaire. Et donc ça, c'est une photo en 1979. Vous voyez la calotte glaciaire en été. Et ça, c'est la même photo en 2003. Et depuis, ça a encore beaucoup fondu. Donc maintenant, c'est comme ça, si on avait la même. Je n'ai pas retrouvé la même photo. Et donc, vous voyez que la calotte glaciaire a perdu 30% de sa surface en une vingtaine d'années. Et elle a aussi perdu 30% de son épaisseur. Donc on voit que ça évolue quand même assez vite. Alors ça n'empêche pas la vie de s'épanouir partout sur la planète, mais on voit que tout ça, les équilibres sont quand même en train de changer. Le Groenland s'appelle Greenland, parce qu'à l'époque des Vikings, c'était une terre verte, et non pas blanche, comme on voit ici. Sur les photos de droite, vous avez la surface en haut, ici, des surfaces désertiques, ou semi-désertiques, donc en jaune. Et si vous réchauffez la planète de 5 degrés, les simulations montrent que les surfaces désertiques ou semi-désertiques, ça devient les surfaces jaunes sous le schéma du bas. Donc on voit tout de suite que ça risque de changer un certain nombre de choses pour un certain nombre de populations. Alors, ça sont les différents types d'énergie, donc pétrole, gaz, charbon. Celles-ci sont celles qui produisent les énergies fossiles carbonées, qui produisent donc beaucoup de CO2. Alors, le gaz produit un peu moins de CO2 que le charbon et que le pétrole. Donc, 20% de mieux que le charbon, ben, c'est un peu mieux, mais ça reste du même ordre de grandeur. Et le gaz, c'est encore un petit peu moins, mais ça reste du même ordre de grandeur aussi. À droite, vous avez les énergies qui émettent très peu de CO2. Le solaire, l'éolien, l'hydraulique et le nucléaire, qui en émettent quand même un tout petit peu, parce qu'il faut quand même faire rouler des camions pour construire les barrages, par exemple. où il faut, pour les éoliennes, produire du béton qui font la fondation de l'éolienne. Et puis quand on rapporte ça au kilowattheure produit, par kilowattheure, ça donne ça. Ce sont des grammes de CO2 par kilowattheure. Donc le nucléaire, c'est 4 grammes de CO2 par kilowattheure. Le gaz, et même avec les techniques de cycle combiné, gaz propre, etc., les meilleures techniques aujourd'hui, comme en Allemagne, c'est 400 grammes de CO2 par kilowattheure. Ça, c'était avec le gaz d'il y a 25 ans et sans les cycles combinés. Voilà. Donc on voit qu'il faut en fait favoriser les énergies ici qui sont sur la droite du diagramme et sortir le plus possible des énergies qui sont là pour résoudre le problème à la fois de la dépendance géopolitique à ces ressources qui sont concentrées dans certaines zones géographiques et la question de la pollution et du réchauffement climatique. Et il faut se concentrer sur ces énergies-là qui, par chance, sont des énergies locales, et il y en a au moins un petit peu partout. Donc chaque pays peut, dans des mesures différentes, suivant le pays, produire son énergie plus ou moins avec ça. Sachant que le solaire, l'éolien et l'hydraulique, on est dépendant de la position des rivières, du taux d'ensoleillement, du taux de vent, etc. Donc c'est variable suivant les pays. Par contre, le nucléaire, eh ben, lui, on peut le mettre partout. Donc en fait, une bonne politique, une première approche, on peut parler après du coût, du prix, qui est encore autre chose, mais ça serait de dire, ben, on fait ce qu'on peut avec ces énergies-là, qui ont aussi des défauts, notamment l'intermittence, dont on va reparler, et puis, ce qu'on n'arrive pas à faire à un prix raisonnable avec ça, eh ben, on complète avec du nucléaire, qui, lui, peut produire autant que ce qu'on a besoin. Donc ça, c'est la bonne stratégie énergétique qu'on peut appliquer partout dans le monde. Par exemple, au Costa Rica, ils ont des montagnes et beaucoup de pluie, parce qu'ils sont, ils ont tout le vent qui vient du Pacifique qui apporte beaucoup d'humidité, ça fait beaucoup de pluie, beaucoup de rivières, il y a quand même quelques montagnes, donc ils peuvent faire 100% de leur électricité avec de l'hydraulique. Donc c'est un des rares pays qui peut tout faire avec de l'hydraulique. Donc à ce moment-là, ils n'ont pas forcément besoin de nucléaire tant que l'hydraulique suffit pour leurs besoins. De la même manière, en Autriche, ils ont beaucoup d'hydraulique aussi, parce qu'ils ont les Alpes, donc ils peuvent se permettre d'être anti-nucléaires. Mais en France, l'hydraulique, même en équipant pas mal, c'est 15% de notre électricité et il faudrait qu'on double notre consommation d'électricité. Donc on voit bien que c'est bien d'en faire, mais ça ne suffit pas. Donc que faire? La première chose, c'est bien sûr, on n'est pas obligé de gaspiller l'énergie, donc on peut améliorer, faire des économies d'énergie, améliorer l'efficacité énergétique. Donc ça, ce sont des moyens technologiques qui permettent de consommer moins pour rendre le même service. Par exemple, les ampoules à LED qui consomment 5 fois moins en éclairant pareil. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut faire des énergies propres qui sont le nucléaire et les énergies renouvelables. Donc un exemple, donc, c'est ma maison. Donc, elle consomme de l'ordre de 20 fois moins d'énergie que la même maison construite à côté et chauffée d'une manière classique. Et elle émet de l'ordre de 100 à 1000 fois moins, 400 fois moins, suivant la manière dont on fait les calculs, de CO2, parce que le peu d'énergie qui est consommée, c'est de l'électricité. Et comme le nucléaire, c'est 4 grammes, en plus, j'ai pris un abonnement Tempo chez EDF, et donc je ne consomme que l'électricité, ou presque que de l'électricité de nuit, qui donc n'émet pas de CO2, puisqu'elle est à 100% nucléaire la nuit. Voilà. Donc, dans ma maison, vous avez donc un puits canadien. Ça, c'est un tuyau de 20 cm de diamètre, les mêmes que pour les égouts, qui est enterré sous le jardin. Donc, ça, c'est une photo prise avant de construire. Ça, c'est mon ancienne maison. Ça, c'est ma nouvelle maison que j'ai construite après. Donc, il y a un tuyau, l'air rentre, il passe dans un circuit de tuyaux souterrains, entre 1 mètre et 3 mètres de profondeur, et il rentre dans la maison à 15 degrés, réchauffé par le bloc de terre. Donc, à 2 mètres de profondeur, vous avez toute l'année 15 degrés de température. 15 degrés, ça a l'avantage d'être très proche des 20 degrés qu'on veut dans la maison. Donc, en été, quand on veut de l'air frais, ben c'est nickel, parce que le décalage entre 15 et 20 est dans le bon sens. Donc, on peut climatiser sa maison avec un puits canadien. Et on peut, à l'inverse, en hiver, quand il fait moins 10 dehors, eh bien, l'air va rentrer à 15 degrés, donc il n'y a pas besoin de le réchauffer de moins 10 à plus 20, mais seulement de plus 15 à plus 20, donc il faudra beaucoup moins d'énergie pour chauffer sa maison. Voilà. Alors un puits canadien, ça paraît très écolo, hein, c'est très en vogue dans les milieux naturels, écologistes, mais en réalité c'est surtout du gros terrassement. C'est pas un métier d'écologiste sympathique qui se bouge pas les fesses, quoi. Donc là, quand j'ai fait mon puits canadien, ben, on a loué une pelle mécanique que vous voyez là avec mon frère, et puis on a fait tourner la pelle pendant 2-3 jours. Alors ça nous a consommé 50 litres de gazole pour faire le puits canadien. Mais après, quand on voit qu'il va vivre pendant 50 ans et faire des économies pendant 50 ans, et qu'une maison, ça consomme des milliers de litres de gazole si on chauffe au fioul, on voit bien que c'est hyper rentable et que les 50 litres de gazole ne pèsent rien du tout par rapport aux économies d'énergie que ça permet de faire ensuite. Donc un puits canadien, c'est juste un tuyau comme ça en PVC ou en ciment, en tout ce qu'on veut, qui est enterré dans le jardin.
Voilà.
Donc on peut faire évoluer nos techniques de construction avec des matériaux plus isolants, une isolation mieux faite. Moi, je chauffe ma maison avec une pompe à chaleur que vous voyez ici. Donc ça fonctionne comme un frigo, sauf que dans un frigo, vous avez la plaque chaude et la plaque froide. On met la plaque froide dans le frigo et la plaque chaude en dehors, derrière le frigo, pour réchauffer la cuisine. Quand on fait une pompe à chaleur pour chauffer sa maison, on fait l'inverse. On met la plaque chaude dans la maison et la plaque froide dehors. Donc on va réchauffer sa maison et refroidir l'air extérieur. Et si votre pompe à chaleur est réversible, ça veut dire que vous pouvez changer le flux avec le système pour que ça soit l'inverse et que l'air froid vienne dans la maison pour faire la clim en été et on réchauffe l'extérieur à ce moment-là. Et donc cette pompe à chaleur, elle permet de consommer 6 fois moins d'électricité que du chauffage électrique, ce qu'on appelle le COP, le coefficient de performance d'une pompe à chaleur. Donc quand c'est une pompe à chaleur RR, le COP est de l'ordre de 2 ou 3 maximum. Quand c'est une pompe à chaleur OO sur nappe phréatique, ce qui est le cas là, on a un COP qui peut monter jusqu'à 5 ou 6 dans des conditions très optimales. Voilà. J'ai aussi donc une ventilation double flux que vous voyez ici. Donc tout l'air qui rentre dans la maison arrive par le puits canadien, ici. Donc il sort par ce tuyau-là qui arrive du sol, hein, en profondeur. Hop. Et puis ensuite, on passe dans le bloc VMC double flux. L'air arrive à 15 degrés. Et l'air qui sort, qui est évacué, qui arrive des sacs de bain, il va céder, qui est donc à 20 degrés puisqu'il sort de la maison, il va céder sa chaleur à l'air qui rentre avec un échangeur à plaque, un peu comme dans les centrales nucléaires, il y a des échangeurs thermiques. Voilà. Et donc l'air qui arrive à 15 degrés ici, ce qui est déjà mieux que moins 10, eh bien, il va se réchauffer de 15 à 20 avec un rendement de 90%, donc en fait il se réchauffe de 15 à 19,8, comme 19,9, et il arrive déjà à 20 degrés dans la maison, donc finalement il n'y a plus besoin de chaleur pour chauffer l'air déjà. On ventile la maison sans avoir besoin de dépenser d'énergie pour chauffer l'air. Donc ça fait un problème de résolu, puisque dans une maison standard, pour ventiler, on fait rentrer l'air au-dessus des fenêtres, mais en hiver, c'est de l'air froid qui rentre, donc il faut réchauffer. Donc il y a une sorte de contradiction entre ventiler sa maison pour bien respirer et chauffer sa maison en faisant des économies d'énergie. Et donc cet appareil qui s'appelle un échangeur, ici, eh bien, il résout ce dilemme. Il permet à la fois de bien ventiler sa maison pour avoir plus de confort respiratoire et en même temps de ne pas dépenser d'énergie pour chauffer cet air froid qui rentre quand c'est l'hiver. Voilà, donc on voit que c'est la technologie qui apporte des solutions. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre sur le plan philosophique, c'est que la technologie n'est pas un ennemi, il ne faut pas être contre le progrès, au contraire, la technologie nous apporte des solutions. Et le nucléaire, qui est un outil extraordinaire, c'est une solution technologique exactement, qui fonctionne avec des échangeurs, des tuyaux, etc. Et donc une maison écologique, c'est un peu comme un réacteur nucléaire, en fait. Il y a deux approches possibles de la maison écologique. Vous avez celle qui est, quand on dit maison écologique, souvent on visualise la maison des trois petits cochons. Vous voyez, avec le sol en terre battue, le toit en chaume, et puis un feu de cheminée au milieu. Voilà, donc moi j'appelle ça la maison des trois petits cochons. J'ai des amis qui ont construit des maisons comme ça au Canada. Ça fonctionne. Et en général, c'est l'hôtel des courants d'air. C'est pas si confortable que ça. Mais c'est une conception de la maison écologique. Donc moi, j'ai une autre conception de la maison écologique. Je ne refuse pas a priori la technologie si elle rend service et qu'elle permet d'économiser des matériaux ou d'économiser de l'énergie. Donc là, on a la maison écologique technologique. Donc ça fonctionne avec des tuyaux, des échangeurs, et ça donne une maison super confortable qui ressemble à une maison moderne, qui a tout le confort d'une maison moderne. C'est même plus confortable, puisque par exemple l'air qui est dans ma maison, il a été filtré 3 fois. Une première fois à l'entrée du puits canadien, où j'ai un filtre, une deuxième fois à l'entrée du VMC double flux, et une troisième fois à la sortie de la VMC double flux. Donc j'ai un air dans ma maison qui est de la même qualité que dans un service de pneumologie à l'hôpital. Il n'y a pas de poussière. C'est un air propre, donc c'est une maison écologique plus confortable qu'une maison normale. Thermiquement, elle est super stable, parce que comme j'ai un plancher chauffant, qui est du béton coulé par-dessus ça. Il y a des ruptures de ponts thermiques. Vous voyez, donc il y a plein de petits trucs qui sont des trucs technologiques, en fait, des petites astuces au moment de la fabrication, qui font que ça ne coûte pas plus cher qu'une maison normale ou à peu près pareil, mais qu'elle est beaucoup plus confortable et beaucoup plus performante thermiquement à l'arrivée. Donc mon coût en énergie, c'est de l'ordre... La maison consomme 3000 kWh par an d'électricité pour tous les usages, chauffage, ventilation, climatisation en été, photocopieuse, je travaille chez moi, etc. Cuisson, tout inclus, quoi, 3000 kWh, donc vous pouvez comparer avec ce que vous consommez vous. Et mes panneaux solaires sur le toit, qui sont de l'autre côté, puisque c'est le toit côté nord, mais il y a le toit côté sud avec les panneaux derrière, ils produisent 3200 kWh par an. Et puis j'ai installé dans le fond du jardin encore à peu près la même chose, donc une capacité de production de 7 ou 8 kW crête en tout, ce qui fait que ça couvre largement la consommation de ma voiture électrique et même davantage. Donc c'est pour ça que je suis donc un citoyen positif en énergie, mais quand même très content d'être connecté au réseau électrique français, parce que je produis sur l'année plus de kilowattheures que je n'en consomme, sauf que ce n'est pas au bon moment. C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'énergie, c'est surtout en hiver pour faire marcher ma pompe à chaleur. Et à ce moment-là, ben c'est le moment où il y a le moins de soleil. Donc avec mes panneaux solaires, j'ai l'air malin. Et en été, je produis plein d'énergie avec mes panneaux solaires, mais c'est au moment où je n'en ai pas besoin. Donc je suis drôlement content d'être quand même connecté au réseau EDF, malgré ma maison prototype avancée. C'est la maison la plus économe en fait qu'on puisse imaginer, la plus performante écologiquement, et on voit bien qu'elle ne résout pas totalement le problème. On a malgré tout encore besoin du nucléaire. Même si j'en consomme très peu, eh ben, on en a encore besoin. Voilà. Donc en résumé, donc, il faut sortir le plus possible du gaz, du pétrole et du charbon qui nous viennent de l'étranger et qui nous coûtent très cher et de plus en plus cher. Il faut améliorer les méthodes, économiser l'énergie, et puis il faut tout électrifier en basculant sur les énergies qu'on a chez nous et qui sont économiquement viables, donc le nucléaire et les énergies renouvelables. Sur le plan des voitures, donc, on a vu apparaître une myriade de nouveaux modèles de voitures électriques ces dernières années. Donc ça, c'était le premier Tesla Roadster en France vers 2010, par là. Après, il y a eu la Tesla Model S. Maintenant, on a le Tesla Cybertruck. Et puis, bien sûr, en France, les Model S, Model Y, etc., Model 3. Là, c'est la Volkswagen ID3, qui était sortie il y a quelques années. Et ça, c'était ma deuxième voiture électrique, donc Hyundai Kona. Les Sud-Coréens sont très bons sur les voitures électriques aussi. On va en reparler après. Alors... Voilà, donc ça, il y a eu dans le domaine des voitures électriques toute une série de révolutions technologiques au fil du temps. Donc au début, on faisait des batteries avec du plomb. Donc ça avait 50 km d'autonomie, ça s'usait assez vite, on ne pouvait pas faire un grand nombre de cycles charge-décharge, donc il fallait souvent changer les batteries. Ensuite, il y a le nickel métal hydrure qui est apparu, puis les premières batteries au lithium. Donc ma première Zoé que vous voyez là, elle avait une batterie de 22 kWh. Aujourd'hui, c'est tout petit. C'était en 2012-2013. Aujourd'hui, c'est tout petit, 22 kWh. La moindre Renault Zoé de base, elle fait 54 kWh maintenant. Donc ça a plus que doublé en une dizaine d'années. Et cette courbe de progrès des batteries n'est pas terminée encore. Autrement dit, ça va encore progresser. Alors, ça ne va sans doute pas aller à l'infini, mais c'est encore parti pour progresser puisqu'on a des nouvelles batteries en laboratoire qui sont au stade de test et d'études, qui sont plus performantes que ça déjà. Donc, on sait qu'elles vont déboucher. Sans savoir exactement de combien de pourcents ça va progresser exactement, mais on sait que ça va encore progresser, peut-être de 50%, peut-être de 30%, peut-être d'un facteur 2. Voilà. Donc là, en 2018, j'ai acquis ma nouvelle voiture. Donc celle-là, elle peut espérer durer avec sa batterie d'origine 300 000, maximum 500 000 km. Celle-là, elle peut faire tranquille 1 million de kilomètres avec sa batterie d'origine. Donc si vous comparez avec une voiture à essence, on dit la batterie voiture électrique, le problème, c'est trop cher. Parce que alors la Kona elle est intéressante, on va voir ça, je crois, sur le slide d'après. Voilà. Donc, ouais. Donc, on va revenir là. Donc, une voiture essence, c'est une durée de vie, une longévité de 250-300 000 km typiquement en France. Ensuite, le moteur va s'effondrer, à un moment donné, il coûtera trop cher à réparer, donc elle va partir à casse. Il y a certaines voitures qui peuvent aller jusqu'à 500 000 quand c'est des bonnes voitures, qu'on les bichonne bien. Mais en moyenne, c'est 300 000 km pour qu'une voiture parte à la casse. Donc ces voitures-là, c'est de l'ordre d'un million de kilomètres, à condition de faire attention comment on charge sa batterie. Il faut éviter de descendre à 0%, ne faut pas rouler réservoir vide. Et il faut éviter de la charger à 100%. Il faut rester dans la zone entre 20 et 80%, ou entre 30 et 70%. Quand vous restez autour de la zone des 50%, il n'y a presque pas d'usure. Vous multipliez la longévité par 5 ou 10. Donc au lieu de tenir 200 000 km, qui est ce que garantit le constructeur, vous arrivez facile à 1 million de kilomètres juste parce que vous évitez de rouler à vide, ou proche du zéro. Et il faut éviter de trop multiplier les charges rapides. Donc quand on est chez soi à la maison, il ne faut pas avoir un chargeur super rapide, ça ne sert à rien. On recharge la nuit, on a toute la nuit pour recharger, donc il n'y a pas besoin d'installer un chargeur de 50 kW ou 20 kW. Moi, chez moi, j'ai un chargeur de 22 kW, mais je l'ai réglé pour qu'il charge que à 7 ou 8, parce que je n'ai pas besoin de plus, en fait. Et ponctuellement, si un jour je suis très pressé, si je veux, je peux augmenter, mais c'est mieux pas pour préserver la longévité de la batterie. Donc, on voit que la capacité de la batterie augmente avec les années, le moteur est de plus en plus efficace. Ma première Renault Zoé, elle consommait 18 kWh au 100 km. Ma deuxième voiture électrique, celle-là, elle consomme moins de 15 kWh au 100 km, alors qu'elle pèse 30% plus lourd que la Renault Zoé. Parce que le moteur est un peu plus efficace, parce que les roulements à billes, ils ont mis quelques terres rares dans les roulements à billes, ce qui fait qu'il y a moins de frottement, ça perd moins. Et donc la technologie, là encore, s'améliore, et donc les voitures électriques consomment de moins en moins, avec des batteries de plus en plus grosses. La recharge est de plus en plus rapide. Celle-là, elle rechargeait à maximum 40 kW. Celle-là, elle recharge à 80 kW. Et vous avez des voitures. Alors, il y a une voiture chinoise qui arrive en France ces jours-ci, là, qui s'appelle la XPeng G9 ou G6. Donc, celle-là, elle recharge à 280 kW. Donc, vous voyez la courbe. C'est une batterie 800 volts. Donc, quand elles font 800 volts plutôt que 400, on peut les recharger plus vite sans les abîmer. Donc vous voyez que ça se recharge de plus en plus vite, elles sont de plus en plus grosses, on en consomme de moins en moins, donc la performance, on n'a pas fini sur cette courbe d'évolution de performance. Donc le basculement au tout électrique, il y a beaucoup de résistance encore, de gens qui attendent que ça soit mieux. Alors c'est vrai que les modèles de voitures évoluent, donc c'est comme l'ordinateur, on a toujours intérêt à attendre le prochain qui va sortir. Mais il y a un moment où il faut s'y mettre quand même. Et en fait, le bon moment, si on a des contraintes financière, c'est d'attendre que ça coûte moins cher que sa voiture à essence. On achète quand on fait des économies. Donc ce moment, il est déjà passé depuis 10 ans, en fait. Puisque ma Renault Zoé, elle me coûtait déjà moins cher qu'une voiture à essence. Avec ça, c'est encore plus performant et je fais encore plus d'économies. Et donc, en fait, la moitié de la population, plus de la moitié de la population française aurait pu ou dû déjà basculer, du point de vue économique. Après, bien sûr, si on a une vieille voiture à essence, qu'on roule extrêmement peu, et qu'on a une grosse contrainte financière, on a intérêt à garder sa vieille voiture à essence le plus longtemps possible, parce que comme on roule très peu avec, elle coûtera toujours moins cher qu'une nouvelle voiture qu'on achète. Voilà, donc la question, c'est le point délicat, c'est les grands trajets. Donc mon grand trajet habituel, c'est de faire 700 km pour partir de Houille en région parisienne et aller voir mes parents dans l'Aveyron, d'où est originaire la famille Combi. Donc je faisais ça au début avec ma Renault Zoé, 22 kWh, alors durée du trajet 23 heures. Il fallait plus de temps pour recharger la batterie que pour faire le trajet, voire le double du temps. Donc je le faisais, mais c'était compliqué. Il faut se lever tôt le matin, arriver à minuit passé. Voilà. Avec ma nouvelle voiture, donc celle-là, c'est un vrai plaisir. Alors la Zoé, j'ai changé la batterie donc en 2018. Juste avant de la revendre, j'ai swappé. C'est comme un téléphone portable. On enlève l'ancienne batterie, on remet une nouvelle. On change la pile, quoi. Et j'ai remplacé par une batterie de 41 kWh, parce qu'entre-temps, on faisait dans le même volume et le même prix, une batterie deux fois meilleure. Donc le prix par kWh avait diminué de moitié aussi. Donc là, ben, au lieu de mettre 23 heures, je mettais plus que 17 heures. Je m'arrêtais deux fois moins souvent. Du coup, il y avait déjà un gros progrès. Mais avec ma nouvelle voiture, ben, je passe de 17h à 9h30. Vous voyez la grosse différence. Là. Alors, après, il n'y a plus grand-chose à gagner, à gratter, parce qu'on est très proche de la durée de trajet d'une voiture à essence. Donc ça a progressé encore un petit peu. Au début, on se chargeait sur Saut d'Étrelle. Donc c'était des chargeurs pas très performants. Souvent, ils ne marchaient pas, ils n'étaient pas très rapides. Maintenant, il y a des charges Unity ou des charges rapides partout sur l'autoroute. Il y en a tous les 40 km. C'est un vrai plaisir. C'est devenu facile avec une voiture électrique. Il n'y a plus du tout de problème. On peut aller n'importe où en France et en Europe avec sa voiture électrique. C'est le temps où c'était délicat, c'était là. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Et donc, je mets maintenant de l'ordre de 8h30 sachant qu'avec ma voiture à essence, je mettais aussi 8h30, parce que comme je suis unique conducteur, il faut que je m'arrête de temps en temps pour faire une sieste une demi-heure. Donc je m'arrêtais deux fois une demi-heure, de toute façon, pour faire la sieste. La différence, c'est que je recharge pendant ma sieste. Là, c'est tout. Donc en fait, il n'y a plus grand-chose. Donc je garde ma vieille voiture, alors que je pourrais... Il y en a des meilleures qui sont sorties depuis 2018. Il y a 6 ans qui ont passé. Donc les nouvelles voitures, elles sont toutes à 150 kW maintenant, minimum. Donc je pourrais en avoir une qui charge deux fois plus vite, mais en fait, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, je m'arrête pour faire la sieste. Et comme celle-là est très agréable à conduire et très économe, eh ben, pour l'instant, je la garde. Voilà. Donc là, c'est au plan économique. La Kona, c'est une Hyundai, donc c'est sud-coréen, hein, sud-coréen. Cette voiture-là est intéressante parce qu'elle existe avec les trois versions. Donc la version essence, elle coûte 25 000 euros. La version hybride, elle coûte 30 000 euros. Et la version 100% électrique, elle coûte 35 000 euros. Donc on se dit, il y a 10 000 euros de plus à sortir quand même. Sauf que ça, c'est quand on regarde que le prix d'achat. Mais après, pour l'entretien, eh ben là, vous allez dépenser en moyenne 15 000 euros pour faire vos 300 000 km, parce que de temps en temps, il faut changer la courroie de distribution. Et puis de temps en temps, l'embrayage. Et puis de temps en temps, la vidange. Et puis les bougies. Et puis ben, quand vous, le pot d'échappement, etc. Donc quand vous additionnez tout ça, il n'y a rien de tout ça sur une voiture électrique. Tout est gratuit, là. Donc vous allez dépenser peut-être 12 000 euros, mais pour faire 1 million de kilomètres et pas 300 000. Ensuite, l'essence. Une voiture à essence, elle consomme de l'ordre... Ça, ça a été fait il y a un certain nombre d'années. L'essence a augmenté depuis. Donc, une voiture essence consomme environ deux fois son prix d'achat en essence sur sa durée de vie de 300 000 km. Donc si vous avez payé la voiture 25 000, vous allez dépenser 50 000 en essence. Ça a augmenté hein, depuis. Voilà. Et l'électricité, ben, c'est beaucoup moins cher. Moi, quand je fais mon prix, je paye mon électricité à 13 centimes le kilowattheure. Et donc, ça me coûte moins de 2 euros les 100 km. Donc, vous faites les calculs, c'est de l'ordre de 4-5 fois moins cher que l'essence. Donc, pour calculer l'amortissement de votre voiture électrique et au bout de combien de temps vous récupérez votre argent que vous avez mis au début, le plus simple, c'est de considérer que l'électricité est gratuite. Parce que c'est à peu près le même calcul, ça ne change pas grand-chose dans le calcul, en fait. Donc vous avez un surcoût de 10 000 euros au départ, mais vous considérez que le carburant est gratuit ou quasi gratuit. Dans ce cas-là, 27 000 euros, mais pour faire 1 million de kilomètres. Voilà. Et donc vous arrivez à un coût total, qui est dans ce cas-là de 74 000 euros, mais pour faire 1 million de kilomètres, et là de 70 000 euros, mais pour faire 300 000 kilomètres. Donc en fait, vous voyez que vous avez un facteur 3 à peu près entre les deux. Ce qui compte, c'est le coût par kilomètre que vous allez rouler. Donc c'est un paradoxe, la voiture électrique, elle coûte plus cher quand on l'achète, mais elle coûte beaucoup moins cher quand on roule avec. Donc c'est comme le moteur diesel et le moteur à essence, autrefois, on disait on paye plus cher pour 3 000 euros de plus pour avoir un diesel, mais après, au bout d'un certain nombre de milliers de kilomètres, on récupère son économie, et sur la vie de la voiture, on gagne. La voiture électrique, c'est pareil, mais encore pire. C'est-à-dire que ça coûte encore plus cher, c'est 10 000 euros de plus quand on l'achète, mais sur la vie de la voiture, c'est des dizaines de milliers d'euros que vous allez économiser, beaucoup plus que si vous rouliez en diesel. Donc c'est le même raisonnement, mais poussé jusqu'au bout. Et finalement, vous économisez vraiment beaucoup plus. Et puis en plus, il y a plein d'avantages, c'est plus agréable, c'est plus confortable, ça ne fait pas de bruit, etc. Et puis il n'y a pas besoin d'aller faire le plein dans une station d'essence, puisque vous arrivez à la maison, et c'est 2 secondes pour faire le plein. Vous branchez, vous débranchez le matin en revenant. Et moi, je ne rebranche même pas tous les jours. Hein. Je rebranche une fois tous les 3 semaines, à peu près, en moyenne. Quand je fais des grands voyages, je charge un peu plus ma batterie la veille au soir. Et donc, toute la première partie, la première moitié du voyage pour aller chez mes parents, je la fais avec de l'électricité à 2 euros les 100 km. Il n'y a que la deuxième partie du voyage où je vais payer mon électricité plus cher parce que c'est au tarif de Ionity qui se moque un peu du monde sur le prix de l'électricité. Mais là, ils sont tous en train de rebaisser les tarifs sur la charge rapide parce qu'ils sont en concurrence maintenant les uns avec les autres. Au début, ils exagéraient sur les prix. Voilà. Donc, ensuite, une question qui se pose, il va nous falloir combien de réacteurs nucléaires pour faire tout ça ? Donc on regarde un petit peu les kilowattheures par an, le nombre de millions de voitures qu'il faut fabriquer, etc. Donc on arrive au schéma suivant. Donc une voiture électrique, un Français moyen, ça roule 15 000 km par an. En ville, moi je consomme 15 kilowattheures pour 100 km, mais quand vous êtes sur l'autoroute, c'est plutôt 20. Ça dépend de la vitesse à laquelle on roule aussi. Donc ça fait 3 mégawattheures par an et par voiture électrique. Un EPR, ça produit 1750 MW, ça produit environ 8 000 heures par an. Il y a 8760 heures dans une année, mais il y a 10% du temps où il faut entretenir le réacteur. Donc c'est plutôt 8 000 heures par an. Donc on produit cette quantité-là de mégawattheures par an avec un réacteur de type EPR. Donc un EPR, en résumé, c'est l'équivalent de 4 millions de voitures électriques. Donc comme en France, on a 33 millions de véhicules privés, de voitures, il faut environ 8 EPR, en supposant que toutes les voitures basculent en 100% électrique. Il nous faudra 8 EPR de plus. Donc on regarde un premier calcul approximatif. Aujourd'hui en France, on a 63 gigawatts. On a nos 56 réacteurs. Bon, s'il faut en faire 8 de plus, ça ne sera pas une catastrophe. On a réussi à en construire 60 en 25 ans, il y a 50 ans. On devrait pouvoir en faire 8 de plus en se débrouillant bien. Ce n'est pas inatteignable. Donc ça semble pouvoir répondre au problème. Ensuite, les véhicules utilitaires, il y en a 6 millions en France. Ça consomme un petit peu plus, mais c'est l'équivalent de 3 EPR. Et les camions, les poids lourds, c'est l'équivalent d'un EPR, parce que ça consomme nettement plus. Donc là, j'ai compté 2,5 fois plus pour l'utilitaire en consommation que pour la voiture privée, et 7 fois plus pour le camion. Donc en tout, il nous faut une douzaine d'EPR, c'est-à-dire 20 gigawatts pour décarboner la mobilité. Bon, on a nos 63 gigawatts aujourd'hui, il en faut 20 en plus, c'est faisable. Voilà. Ce qui manque, c'est la volonté politique et les politiques qui comprennent ça. Donc ensuite, deuxième gros domaine d'émissions de CO2 ou de consommation d'énergie carbonée, c'est l'habitat, le chauffage. Donc là, on a en moyenne 3 MWh par an et par logement. Un EPR, il nous fait nos 13 millions de MWh, donc c'est 13 TWh, 12 ou 13 TWh par an. Voilà. Et donc un EPR, c'est de nouveau 4 millions de logements isolés électrifiés. Alors on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure sur ma maison et à mon niveau à moi. Ma maison, elle me consomme 3000 kWh par an, et ma voiture, elle me consomme 3000 kWh par an pour faire mes 15 000 km. Donc vous voyez que c'est du même ordre de grandeur, en fait, pour récupérer l'énergie de chauffage des bâtiments que ce qu'on vient de voir pour récupérer l'énergie des voitures. Donc on arrive aussi à de l'ordre d'une dizaine, parce que là, il n'y a pas les camions et les camionnettes. Il y a les immeubles, mais bon, quand on regarde tout ça, il nous faut aussi une dizaine. Donc en tout, il nous faut 5 EPR pour décarboner le chauffage. Donc en tout, il nous faut un peu moins d'une vingtaine d'EPR pour résoudre le problème à tous les niveaux. C'est-à-dire la France a fait une démonstration scientifique extraordinaire entre les années 1974, premier choc pétrolier, et l'an 2000, fin de la construction du programme nucléaire français. Il nous a fallu 25 ans pour construire le programme nucléaire français. Le dernier réacteur qui est arrivé sur le réseau, c'était Civaux numéro 2. Je m'en souviens très bien parce qu'il m'avait invité pour faire cette même conférence devant les employés de la centrale. Donc le même titre, même conférence, pareil. Et donc c'était en janvier 99. Donc 25 ans pour la réussite éclatante du programme nucléaire français. Donc ce qu'on a fait en 25 ans, on peut le refaire en 25 ans et ça sera terminé avant 2050. Sachant que c'est plus simple, puisque là, on part d'une base qui existe, on a EDF qui existe, on a Framatome qui existe, on a l'usine de Saint-Marcel qui existe. En 1974, on n'avait pas l'usine de Saint-Marcel. Il a fallu la construire. On n'avait pas les 100 000 employés d'EDF, on n'avait pas les centres de formation, on n'avait pas le savoir-faire. On achetait la licence américaine, c'était moins facile. Voilà. Donc ce qu'on a fait dans les années 70, 80 et début des années 90, il faut refaire, il faut aujourd'hui refaire un plan Messmer 2, comme on a fait le plan Messmer 1, construction du programme nucléaire français. Il nous faut un deuxième grand programme nucléaire français. La seule chose qui manque, c'est des politiciens qui comprennent ça. Il nous faut un président d'EDF, un président de la République et un Premier ministre qui comprennent ça, qui comprennent que le salut de la France, il passe que par là. En fait, c'est une condition nécessaire et suffisante. Il n'y a aucune autre chose importante à faire. Tout le reste, ça suit après les histoires de sécurité, d'éducation, etc. Quand on a le niveau de vie et l'industrie qui tourne, après, l'éducation, on peut payer les profs, c'est plus le problème. Donc la source, le cœur du problème, c'est ça. Donc il faut des politiciens qui comprennent, qui prennent la décision, et puis ensuite on avance, et on fait comme dans les années 70, on avance comme des militaires. Il faut tant, on planifie, il faut tant de réacteurs, on va les mettre là et là et là et là, et on a une base pour démarrer qui est extraordinaire, puisqu'on est le seul pays au monde où quand on a construit des réacteurs, par exemple... au Bugey, il y a deux réacteurs aujourd'hui. Mais on a prévu les deux emplacements à côté pour remplacer les deux réacteurs. Donc on a déjà le foncier, le terrain qui est acheté. avec les équipements pour la prise d'eau et les rejets d'eau, tout est prévu. Il y a la moitié du travail qui est déjà fait, en fait. Et l'idée, c'est qu'on va démanteler les deux anciens réacteurs. On va construire les deux nouveaux pendant que les deux anciens fonctionnent. Puis ensuite, on démantèle, une fois que les deux nouveaux sont en production, on démantèle les deux anciens. Et il faut une dizaine d'années pour faire ça tranquille, en prenant son temps, sans irradier trop les personnels, etc. Et de manière à ce que quand les deux nouveaux arrivent en fin de vie, eh bien, on a ramené le terrain à zéro et on peut re-remplacer par là. Donc c'est soutenable à long terme. Donc la France a construit son programme nucléaire de manière écologique depuis le départ, et en prévoyant même les générations successives de réacteurs. Et aucun autre pays au monde n'a fait ça. Aux États-Unis, ils ont acheté le terrain pour faire deux réacteurs, ils ont fait deux réacteurs et ils n'ont pas de place pour faire les deux suivants. Ce n'est pas prévu au départ comme nous. Donc nous, on peut prendre tous les sites nucléaires. Flamanville, c'est pareil. On a fait Flamanville 3 à côté du 1 et du 2, parce qu'il y avait deux emplacements prévus pour ça. Et donc tous les sites nucléaires français, ou presque, sont prévus pour avoir le nombre de réacteurs à côté. Il se trouve qu'en plus, les nouveaux réacteurs sont un peu plus puissants que les anciens, parce qu'on progresse dans la technologie, comme pour les voitures électriques. Et donc un réacteur EPR aujourd'hui, c'est 1650 MW, alors qu'autrefois, on construisait des réacteurs de 900 MW. Donc il n'y a pas besoin du même nombre. Mais comme on doit augmenter la puissance totale pour satisfaire les nouveaux besoins, transport électrique, chauffage des bâtiments, en fait, le programme, il est assez simple. Donc ça, c'est cogénération. Bon, on va voir après. Le programme, il est assez simple, c'est qu'il faut, remplacer nos réacteurs actuels à nombre égal par des EPR. Donc sur chaque site où il y a deux réacteurs, on construit deux EPR. Sur chaque site où il y a quatre réacteurs, on construit quatre EPR. Et donc on passera de 63 gigawatts de production à 100 gigawatts si on fait ça. Voilà, donc il faut les remplacer un pour un par des EPR. Le programme est simple, clair, net, facile à comprendre. Voilà, ça c'est la cogénération. Donc on peut aussi faire la chaleur sur les villes où il y a des réseaux de chaleur. Par exemple, ça c'est un plan de la ville de Grenoble, puisque ça avait été envisagé dans les années 70. Donc c'est un plan un peu ancien, à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur, on faisait les plans à la main. Et donc c'était un réseau de chauffage de la ville de Grenoble qui existait déjà à l'époque, mais on voulait y mettre un réacteur qu'on appelait le réacteur Thermos. Le projet, c'était Thémis. Bon. Avec un réacteur Thermos, donc, et il était question d'en mettre un aussi quelque part proche de Paris pour chauffer toute la banlieue sud de Paris avec un réacteur nucléaire. Puis finalement, avec l'arrivée de Mitterrand en 81, qui avait dit qu'il voulait sortir du nucléaire, tous ces projets-là sont partis... ont été oubliés, mais ça revient, puisqu'on a de la cogénération nucléaire dans un certain nombre d'autres pays. En France, ça ne se fait pas. Mais, par exemple, moi, j'ai vu des réacteurs nucléaires qui font de la cogénération en Russie. Vous avez le réacteur de qui est au nord-ouest de Moscou, à une ou deux heures de voiture, à peu près. Donc, en allant pour visiter le réacteur, sur le bord de la route, il y avait deux gros tuyaux. Donc, j'ai demandé à mon traducteur qui était avec moi... Hein, je lui dis, c'est quoi les deux gros tuyaux? Parce qu'on finit par avoir l'habitude, à force de visiter des réacteurs nucléaires. Je lui dis, les deux tuyaux, là, vous faites de la cogénération? Il dit, ouais. Il dit, donc la ville qui, en fait, où habitent les personnels de la centrale nucléaire est chauffée par la chaleur de la centrale nucléaire. Ce qui paraît relativement évident. C'est de la chaleur gratuite. Plutôt que de réchauffer la rivière, on réchauffe la ville d'à côté, surtout en Russie où il fait froid. Donc j'ai vu des réacteurs comme ça de cogénération nucléaire en Russie, mais aussi en République tchèque. Vous avez le réacteur de Temelin qui chauffe une ville avec, je crois, encore de 50 000 habitants à côté, qui est entièrement chauffé par un réseau de chaleur. Ça avait été même envisagé à Nogent-sur-Seine, au moment de la construction de la centrale. Ils avaient fait toutes les études, et puis à la dernière minute, il y a un ingénieur qui est passé qui a dit « Non, on ne va pas s'emmerder avec ça, finalement on reste tombé ». Mais quand une fois que tous ces gens-là sont à la retraite, ils terminent tous dans mon association des écologistes pour nucléaire. Et là, ils expriment ce qu'ils pensent vraiment, mais qu'ils n'ont jamais pu dire à leur patron. Donc on apprend plein de choses intéressantes, et notamment le fait que ce projet donc, avait été envisagé, et puis avait été refusé pour ne pas se compliquer la vie. Quoi. Ça ne sert à rien. C'était à l'époque où l'électricité ne coûtait pas trop cher, le chauffage ne coûtait pas cher. Ils disent on met du chauffage électrique partout, c'est plus facile. Voilà. Mais on réchauffe la rivière, ce qui est un peu bête, pour rien. Voilà. Donc aujourd'hui, il est question d'avoir même des petits réacteurs nucléaires, comme Newward, bien que le projet soit peut-être suspendu pour l'instant. Donc des petits réacteurs qui permettent de chauffer des villes de taille moyenne pour arrêter de se chauffer avec du gaz qui vient de Russie, sauf qui ne vient plus de Russie maintenant. C'est les Américains qui nous ont torpillé Nord Stream. Et on avait du gaz russe qui nous coûtait cher sur la balance commerciale, mais enfin, par rapport à ce qu'on paye aujourd'hui, c'était pas cher, finalement. Et maintenant, on importe à la presse du gaz russe du gaz naturel liquéfié qui vient des États-Unis. Donc, chez nous, on n'exploite pas le gaz de schiste, mais on l'importe, produit dans des conditions bien pires des États-Unis, en le payant 5 fois le prix qu'on payait le gaz russe avant, qu'on trouvait déjà qui était trop cher. Voilà. Donc, comme l'énergie, ça coûte cher, on va revenir sur tous ces vieux concepts, finalement. Ça ne va pas tarder à revenir. Il faut le temps que les politiciens se réveillent un peu. Ce n'est pas instantané. Alors, les éoliennes modernes, ce n'est pas des petits engins. Elles sont 2 fois plus hautes que la cathédrale de notre pays. Là, c'est Notre-Dame de Paris, qui fait 70 mètres de haut, environ, ici. Là, on est à 150 mètres, parfois 200 mètres pour les plus grosses. Maintenant, il y en a qui font, je crois, jusqu'à 20 mégawatts maintenant. Mais quand ça tombe, ça fait mal. Il faut des quantités énormes de béton à la base, ce qui fait que ça consomme beaucoup plus de béton que les centrales nucléaires par kilowattheure produit. Et quand je dis beaucoup plus, c'est de l'ordre de 10 ou 20 fois plus. Voilà, et tout ça pour produire du vent uniquement. Pour produire des kilowattheures uniquement quand il y a du vent. Alors il en faut combien? Donc on a un EPR ici à Flamanville en Normandie. Si on veut produire autant d'électricité que cet EPR, eh bien, il faut aligner les éoliennes géantes 2 fois plus hautes que des cathédrales, depuis Gênes en Italie jusqu'à Barcelone en Espagne. Et sur 2 rangées. Parce qu'on ne peut pas les mettre à moins, il y a un règlement, une norme, il faut mettre 300 mètres minimum entre 2 mâts d'éoliennes géantes, pour que les oiseaux aient une chance sur 2 de pouvoir passer entre les 2. C'est sympa pour les oiseaux. Voilà. Donc, il faudrait donc de Gênes en Italie jusqu'à Barcelone sur 2 rangées, ou alors on fait 1 rangée et puis tout autour de la Corse, en espérant que nos amis corses soient d'accord. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un petit souci environnemental avec cette histoire d'éolienne. C'est une énergie qui est bien, sauf qu'elle a 2 gros défauts énormes et insurmontables. Le premier, c'est que c'est une énergie diffuse. C'est une énergie douce, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup nulle part. Et le deuxième défaut, c'est que c'est intermittent. Il n'y en a que quand il y a du vent, et quand il n'y a pas de vent, ben, il n'y a pas d'énergie. Alors, on a besoin d'une énergie qui produit à la demande. Donc ça ne résout pas vraiment le problème. Là, on voit un autre paradoxe, qui est que souvent, on nous cite l'Allemagne et le Danemark comme étant des pays écologiques. Donc là, en tant que Français, je vous demande de vous lever et de réagir bien fort. Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds par les Danois et les Allemands. Ils vont vous dire, oui, chez nous, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait les éoliennes. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils font 20% avec des éoliennes, et puis ensuite, ils font les 80% qui restent, ils font autre chose. Alors, comme ils ont dépensé tout leur argent dans les éoliennes, ils font avec du charbon pas cher, les 80% qui restent. Alors, en Allemagne, c'est de l'ordre de 50-60% maintenant. Mais quand vous faites 50% de super sale, et puis 20-30% de gaz qui est un peu moins sale, et puis 20% de propre, ben finalement, vous êtes à 80% sale, quoi. Et 20% de propre. Et donc en France, nous, on fait l'inverse. On fait 80% d'électricité nucléaire propre, et puis quand il nous en manque un petit peu en hiver, eh ben, on met quelques centrales à gaz ou des vieilles centrales à charbon, qu'on a maintenant tout arrêté. Mais il valait mieux suivre l'exemple français, parce que c'est beaucoup meilleur en résultat, et on le voit sur ce diagramme. Donc là, c'est les tonnes de CO2 par gigawattheure rejetées par pays et par habitant. Et donc là, vous voyez que ben, les Allemands, en fait, ils émettent par kilowattheure, c'est 10 fois plus que des Suédois ou des Français. Parce qu'en France et en Suède, c'est le nucléaire et l'hydraulique qui font l'électricité, alors que chez eux, c'est de l'éolien et de l'énergie carbonée. Et l'éolien, comme ça ne fait pas grand-chose, en fait, vous pouvez barrer l'éolien, en fait, c'est du carboné. Et chez nous, c'est du sans CO2. Voilà. Donc il faut suivre l'exemple français, il faut arrêter de se faire donner des leçons par l'Allemagne qui raconte n'importe quoi. Et puis entre les deux, vous avez, en fait, le taux d'énergie nucléaire qui diminue à mesure que vous avancez. C'est-à-dire qu'en Belgique, ils avaient 50% d'électricité nucléaire, donc ils étaient à mi-chemin entre la France et l'Allemagne. Et puis en Espagne, ils étaient à 30% d'énergie nucléaire, donc ils étaient un peu plus près de l'Allemagne que de la France. Donc en fait, ça, c'est le taux d'électricité nucléaire, le facteur clé. Et il n'y en a pas d'autre. La clé, c'est qu'il faut faire plus de nucléaire si on veut être plus écologique. C'est pas compliqué. Voilà, pareil pour le solaire. Donc ça produit, mais que quand il y a du soleil. Donc le nucléaire est une énergie qui a évolué, c'est une technologie qui se perfectionne au fil du temps. Il y a des réacteurs en construction dans plein de pays, donc il y a eu le marché des Émirats Arabes Unis qu'on a perdu, alors que ça aurait dû être des réacteurs nucléaires français, ils s'y sont pris comme des manches, en se bouffant au nez devant les clients, pour faire simple. Et en voulant leur imposer un EPR, alors qu'ils nous demandaient le vieux réacteur de 900 MW. On aurait dû leur vendre le vieux réacteur de 900 MW, puisque c'est ce qu'ils voulaient. Ils étaient prêts à en payer 4 et ils ne comptaient pas le prix. Voilà. Donc en Finlande, il y a l'EPR a fini par démarrer. Nous, on va démarrer Flamanville. Là. Maintenant, il fonctionne. Ça y est, il a divergé. Et il va être accordé au réseau fin d'année. Voilà. Et puis, bon, l'Allemagne, dont on nous parle souvent, c'est n'importe quoi l'Allemagne. Mais un jour, ils reviendront au nucléaire. Moi, je ne suis pas inquiet du tout. Parce qu'ils ont déjà changé d'avis 4 fois à 180 degrés. Au début, l'Allemagne était dans le camp des antinucléaires, puisqu'ils étaient contre la France et les États-Unis. Mais après, ils sont devenus pro-nucléaires dans les années 70. Ils étaient très bons, les Allemands. Donc il y avait Siemens, qui était un grand fabricant nucléaire. Donc, et puis après, ils ont basculé contre, puis ils ont rebasculé pour. Puis après, il y a Angela Merkel. Quand elle est arrivée, Angela, elle était pro-nucléaire à fond, parce qu'elle était même prof de physique, elle adorait ça. Et puis après, il y a eu Fukushima en 2011, et brutalement, elle a eu peur des tsunamis. Alors elle n'a pas dû réfléchir beaucoup, parce que les centrales nucléaires allemandes, elles sont toutes sur des rivières, hein. Elles ne sont pas au bord de la mer. Donc, mais au nom de la lutte contre les tsunamis, elle a arrêté tous les réacteurs nucléaires. En fait, ce qui se passait, c'est surtout qu'il y avait des élections 15 jours après en Allemagne, et si elle ne faisait pas une alliance en urgence avec les Verts, elle perdait l'élection. Donc elle a sacrifié le programme nucléaire allemand pour gagner une petite élection locale. Voilà. Alors, quand on regarde maintenant les chiffres, comparaison de la France et de l'Allemagne, les émissions de CO2, ben, les Allemands émettent 2 fois plus par habitant que les Français. Et le prix du kilowattheure, c'est le double en Allemagne qu'en France. Alors, nous, on trouve que c'est trop cher, mais chez eux, c'est le double. Voilà. Donc, de nouveau, l'exemple à suivre, c'est pas l'Allemagne, c'est la France. Voilà, bon, là, on va passer un peu vite. Donc il nous faut des énergies propres, on va manquer d'énergie. On a eu de la chance en 74 et 80, les deux premiers chocs pétroliers, parce que le pétrole coûtait plus cher, mais il y en avait pour tout le monde à condition de le payer. La crise dans laquelle on rentre maintenant, elle est d'une nature différente. Et ça va être beaucoup plus dur. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus du pétrole pour tout le monde. Et même si vous mettez les valises de billets, vous vous saignez, vous cassez votre cochon rose et la tirelire, et vous décidez de mettre des valises avec des milliards d'euros sur la table, on vous répondra non, non. Pour vous, il n'y en a plus, parce que vous n'êtes pas un copain. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, à condition de payer éventuellement plus cher, on en avait autant qu'on voulait. Mais dans le monde de demain, il n'y en aura que pour les copains. Et donc Poutine, les pays du Moyen-Orient, les gros pays producteurs de pétrole, et peut-être même les États-Unis, ils diront non, non, ça c'est pour nous. Vous, ben, vous avez le nucléaire, débrouillez-vous. C'est-à-dire que la nature de la crise qui vient, elle n'est pas de même nature que celle qu'on a déjà eue. C'est beaucoup plus critique, en fait. Parce que l'argent achète un certain nombre de choses jusqu'à un certain point, et il y a un moment où ça ne suffit plus. Donc c'est encore plus important et vital que ça n'a été jusqu'à maintenant, où on a déjà fait une très belle démonstration. Maintenant sur le nucléaire. Donc la grande différence du nucléaire, c'est que ça consomme extrêmement peu de matières premières. Vous faites autant d'énergie avec 1 gramme d'uranium-235 ou de plutonium-239 qu'avec une tonne de produits carbonés, gaz, pétrole, charbon. 1 gramme pour une tonne, c'est un facteur 1 million. 1 million, c'est une grosse différence. Ce n'est pas qu'on a gagné 20% ou 30%, même pas 50% de mieux, c'est un facteur 1 million. Ça veut dire qu'au lieu de consommer des quantités énormes, donc pour faire fonctionner une centrale électrique à charbon, vous avez N dizaines de trains par jour qui arrivent avec chaque train 50 wagons remplis de charbon à ras-bord, juste pour faire tourner la centrale à charbon. Et vous remplacez tout ça par, en gros, une camionnette d'uranium, tous les 3 ans, pour faire fonctionner un réacteur nucléaire. Donc c'est ce facteur 1 million, ça change tout. À cause de ce facteur 1 million, non seulement ça consomme très peu d'uranium, mais ensuite les déchets, c'est jamais que la matière première qui s'est transformée, les déchets. Donc si on consomme 1 million de fois moins de matière première, on produit aussi 1 million de fois moins de déchets. Donc les déchets nucléaires, ce n'est pas un inconvénient, c'est un immense avantage, parce qu'il n'y en a presque pas. Et du fait qu'il n'y en a presque pas, la stratégie pour la gestion de ces déchets est complètement différente depuis le début de l'industrie nucléaire. Donc dans le pétrole, on brûle, on fait des CO2, des quantités, des mètres cubes et des kilomètres cubes de CO2 qu'on envoie directement dans l'atmosphère, et on ne peut pas faire autrement à cause des quantités qu'il y en a. C'est des kilomètres cubes, on va les mettre où? En plus, c'est un gaz, c'est pas facile à confiner. Alors on nous parle de stockage souterrain, etc., mais tout ça, c'est pour amuser la galerie. Ça fait 30 ans qu'on en parle et on n'a toujours pas de démonstrateur qui fasse ça d'une quantité correcte. Ça sert juste aux pétroliers à se verdir leur image en disant on est capable de remettre dans la terre si on veut. Mais en fait, personne ne le fait. Hein. C'est juste pour des petits exemples de démonstration. Donc là, la stratégie des déchets, c'est beaucoup plus simple. Comme il y en a des quantités toutes petites et qu'en plus, c'est des matières solides, donc ça prend beaucoup moins de place et c'est beaucoup plus facile à stocker, eh bien, on ne les remet pas dans les écosystèmes, les déchets nucléaires, on les isole de la biosphère pendant tout le temps où ils sont toxiques. Et c'est le deuxième avantage des déchets nucléaires, non seulement il y en a très peu, mais en plus ils sont biodégradables. Parce que par définition, une substance radioactive, elle va se décomposer jusqu'au moment où elle n'est plus radioactive. Donc c'est des déchets biodégradables, par conception. Alors bien sûr, il faut regarder ensuite élément par élément. Il y en a qui se dégradent très vite, d'autres qui ça met plus longtemps. Mais ceux qui se dégradent très vite, ce n'est pas un problème, puisque très vite, ils ne sont plus là. Ceux qui se dégradent lentement, en fait, ce n'est pas un problème non plus, parce que quand ils se dégradent lentement, ça veut dire qu'ils ne sont presque pas radioactifs. C'est-à-dire que la quantité de radioactivité émise est très faible quand la demi-vie est très longue. Donc en fait, ceux qui ont une demi-vie longue, ils ne sont pas dangereux. Ceux qui ont une demi-vie courte, ils ne sont pas dangereux. Il y a ceux du milieu où il faut quand même prendre quelques précautions et qui durent quand même un certain temps. Voilà. Donc la toxicité décroît. Il suffit de quelques mètres de terre ou une petite paroi de plomb pour les arrêter. Et en plus, on peut retraiter. Donc là, on voit le principe du retraitement. Donc on a une barre de combustible usée. On sépare l'uranium qui est réutilisable, parce qu'il reste 96% d'uranium dans le combustible usé. En fait, c'est comme quand on fait un feu de cheminée, si on brûle que l'écorce. Et puis, il reste tout le cœur de la bûche. Donc, dans nos réacteurs d'aujourd'hui, on récupère 96% d'uranium qui n'a pas brûlé à la sortie, et qu'on pourra brûler dans les réacteurs de demain. Le plutonium, on peut le voir comme un déchet, ou au contraire comme une ressource, puisque le plutonium-239, il contient autant d'énergie que l'uranium-235. Donc c'est pas du tout un déchet, comme nous a expliqué Greenpeace ou les antinucléaires. C'est une ressource énergétique extraordinaire qu'on stocke pour l'instant sur étagère, en quelque sorte, et qu'on pourra demain brûler aussi dans nos réacteurs. Donc la France, c'est un pays de cocaïne pour le nucléaire, parce qu'on a énormément d'uranium qu'on a enrichi pour tous les autres pays. Donc on a d'énormes stocks d'uranium d'avance pour des siècles et des millénaires. C'est-à-dire, on risque pas de manquer d'uranium en France. Quelquefois, sur les plateaux de télévision, on me dit « Oui, mais on va manquer d'uranium. On dépend d'uranium qu'on importe du Canada. » Pas vrai du tout. D'abord, l'uranium, il y en a partout. On peut très bien réouvrir des mines, même exploiter des mines avec des taux d'uranium relativement faibles, comme on l'a fait en France pendant un certain temps. Et puis en plus, comme on enrichit pour les autres, on a tous les stocks d'uranium faiblement enrichi qu'on peut réenrichir, et là, on en a pour des siècles et des siècles. Donc la France, c'est un pays de cocaïne pour le nucléaire, et on a déjà les stocks d'uranium et de plutonium d'avance. Et puis, il y a 3% de cocktails de déchets de différentes matières radioactives qu'il faut stocker. Mais on voit bien qu'on recycle à 97%, donc cette séparation, c'est ce qu'on fait tous les jours à l'usine de La Hague, en Normandie. Donc ce n'est pas un plan sur la comète d'un truc qu'on pourrait faire plus tard, c'est quelque chose qui se fait industriellement depuis un demi-siècle déjà maintenant. Et la France est leader mondial dans ce domaine-là, c'est la meilleure usine au monde pour ça. Donc de nouveau, la France est leader mondial. Donc il ne faut surtout pas démanteler cette usine, comme le demandent de nouveau les Verts et EELV. Il faut au contraire la garder et en construire dans d'autres pays. On a construit celle du Japon et on va construire en partie celle des États-Unis. Donc les autres pays nous envient toute cette technologie. Voilà. Et ça, c'est le volume de déchets nucléaires que produit une famille française qui vit en tout électrique pendant en gros une génération. Donc on voit bien que ce n'est pas un problème insurmontable. Ce n'est pas rejeté dans les écosystèmes. Donc l'impact écologique, il est nul, étant donné qu'il n'y a aucune interaction avec la biosphère. Donc c'est l'énergie la plus écologique. On sait faire du combustible à base d'uranium, donc ça s'appelle MOX, Mixed Oxide, où il y a de l'oxyde d'uranium et de l'oxyde de plutonium mélangés dans les barres de combustible. Voilà. Et donc on peut déjà réutiliser le plutonium si on voulait dans les réacteurs actuels. À mon avis, il ne faut pas le faire. Ou il faut le faire juste un petit peu, comme on le fait actuellement, pour garder le savoir-faire. Il ne faut pas le faire trop, parce que le plutonium va être précieux pour démarrer les réacteurs qu'on appelle réacteurs rapides plus tard. Et il faut 10 tonnes de plutonium pour démarrer un réacteur rapide qui est encore plus performant que les réacteurs qu'on a aujourd'hui. Donc on a intérêt à garder nos stocks de plutonium plutôt que de les cramer pour s'en débarrasser. Donc il faut continuer cette technologie un peu pour garder la main sur les technologies des boîtes à gants, etc., qui sont à Cadarache, à Marcoux, dans le Gard. Mais il ne faut pas en faire trop, parce que sinon on se dessaisit, on brûle inutilement ces stocks de plutonium qui sont une matière première précieuse pour l'avenir. Les gens, quelquefois, ont peur de la radioactivité, mais en fait, tout est radioactif dans la nature. Nous, on est radioactif, le corps humain, c'est 10 000 becquerels, c'est-à-dire 10 000 désintégrations radioactives par seconde qui se produisent dans notre corps à nous. Donc, quand vous prenez un quai de métro à Paris, vous avez 100 personnes qui attendent le métro, vous avez 1 million de becquerels sur le quai de métro. Bon, c'est pas dangereux pour autant, c'est la nature. On est tous radioactifs, et c'est normal. Ce taux de radioactivité dans la nature, il varie, et il varie beaucoup d'un endroit à un autre. Donc une de mes spécialités, c'est que quand je voyage, j'emmène mon petit compteur Geiger partout pour mesurer, et surtout je mesure dans la centrale nucléaire, mais c'est un peu décevant les centrales nucléaires, parce qu'il n'y en a jamais beaucoup en fait. On a beaucoup de mal à trouver un coin vraiment radioactif, parce que quand il y en a un, c'est interdit d'y aller, donc on ne peut pas faire la mesure. Par contre, dans la nature, c'est amusant, parce qu'on trouve des coins qui sont beaucoup plus radioactifs que les centrales nucléaires. Donc quand je vais faire des conférences au Brésil, au Japon, aux États-Unis et partout, j'emmène mon petit compteur et je cherche toujours. Donc je demande toujours, souvent les gens vous demandent qu'est-ce que vous voulez faire, à quelle date vous arrivez, vous repartez pour prendre le billet d'avion. Je dis toujours, vous me prévoyez quelques jours de plus, hein, comme j'ai fait avec Yves. Puis je dis, tu me fais visiter l'usine à côté là. Et puis donc je fais pareil dans chaque pays, donc j'ai fait le tour du monde comme ça, pour visiter les centrales nucléaires au Japon, au Canada, etc. C'est très intéressant, on apprend plein de trucs. Et donc à chaque fois je dis, vous me faites visiter l'usine nucléaire, et puis je veux visiter les sites à forte radioactivité naturelle. Et il y en a dans tous les pays, vous avez des endroits plus radioactifs que d'autres. Donc par exemple en France, je vais à la Bourboule, avec mon petit compteur, parce que j'aime bien les bains, la source chaude, tout ça, c'est sympa. Et je mesure dans la rue 3 microsieverts par heure, ce qui est beaucoup plus que ce que je mesure avec mon compteur quand je vais visiter une centrale nucléaire. Et alors, je cherche toujours le point chaud, j'essaye d'améliorer mon score. Et donc, par exemple, ici, vous avez la plage de Guarapari au Brésil. Donc, c'est l'American Nuclear Society. C'est bon, le micro ? Ça va, le... Oui. Donc, c'est l'American Nuclear Society qui m'avait invité... qui m'avait invité... Ouais. Ok. Donc l'American Nuclear Society m'avait invité pour donner une conférence à Rio sur l'AEPN, le nucléaire, toujours la même que ça. Et après, j'ai dit, je vais prendre 8 jours et je vais à Guarapari au Brésil, parce que j'avais entendu dire que c'était un village de pêcheurs avec une plage radioactive. Donc j'y vais. Effectivement, sur la plage, vous avez des zones de sable blanc et de sable noir. Alors le sable blanc, c'est le sable non radioactif, et le sable noir, il contient de l'oxyde de thorium, et c'est lui qui est radioactif. Donc je vais avec mon compteur, et ça résonne un peu là, donc je vais l'éloigner un petit peu quand même. Voilà. Et je me suis assis sur la limite entre le sable blanc et le sable noir, et j'ai ramené des échantillons en France que j'ai fait analyser par le CEA, et donc il y a la différence en dosage de thorium entre ma main gauche et ma main droite en étant assis au même endroit, c'est un facteur 1 million. Donc il y a 1 million de fois plus de radioactivité dans le sable de ma main gauche que dans le sable de ma main droite. C'est pour vous montrer à quel point la radioactivité est variable dans la nature. À 1 mètre de distance, ça peut varier d'un facteur 1 million. Donc la centrale nucléaire qui n'est pas loin de chez vous, qui va vous rajouter 20% ou 3% sur votre dose de radioactivité, ça compte pour rien du tout. Le nuage radioactif qui est passé suite à Tchernobyl sur la France, qui évidemment s'est pas du tout arrêté à la frontière. Personne n'a jamais dit ça, sauf les journalistes qui désinforment. Le nuage donc a contaminé l'ensemble de la France et l'ensemble des Français, contaminé entre guillemets, mais la dose reçue par Français en moyenne, c'est comme si toute la France avait été une semaine en vacances en Bretagne. En Bretagne, il y a du granit, c'est un peu plus radioactif que les autres régions. Pas beaucoup, mais un petit poil de plus. Donc on voit bien que ce n'est pas un drame. Après, il y a des gens qui sont experts dans la manière de dramatiser. Donc, à la Bourboule, 3 microsieverts par heure. J'ai été à l'office du tourisme pour leur demander s'ils étaient au courant et s'ils en étaient fiers, parce que c'est ça qui explique le pouvoir guérisseur des eaux de la Bourboule. Dès que j'ai dit le mot radioactivité, il fallait plus que je rentre, quoi. Donc j'avais fait un petit article dans le journal, ça leur a pas plu, en expliquant que grâce à la radioactivité, la Bourboule permettait de guérir les malades qui s'y rentrent et les curistes. Donc là, c'est la plage de Gore à Paris avec son sable noir. Alors les gens viennent de toute l'Amérique, des États-Unis, de toute l'Amérique du Sud, à Gore à Paris pour y prendre sa retraite. Ça, c'est le dépliant de l'office du tourisme de Gore à Paris. C'est marqué Gore à Paris, en dessous, en rouge, là, on ne voit pas bien. C'est Cidade da Saúde. En portugais, ça veut dire ville de santé. Gore à Paris, ville de santé. C'est une ville célèbre pour ses bienfaits sur la santé. Et pourquoi ? Eh bien, à cause du sable noir, qui est riche en thorium. Et donc, ce qui est recommandé, c'est d'aller s'allonger sur le sable noir, parce que le sable blanc n'a pas la même vertu, et de s'enduire le corps de sable noir, la première fois, pas plus de 20 minutes. Et puis, si ça, tout se passe bien, le deuxième jour, une demi-heure, 40 minutes, puis après, vous faites des séances de 40 minutes ou une heure, et au bout d'une semaine, ça vous guérit les rhumatismes et un tas de choses. C'est assez amusant. Ici, c'est en Iran. Donc là, vous êtes à Ramsar, au nord de l'Iran, près de la mer morte, là, ou de la mer noire, et vous avez le hotspot mondial. Donc c'est ce que j'ai trouvé de mieux jusqu'à maintenant. Donc petit village, donc Ramsar. Là, vous êtes dans la cour de récréation de l'école, où vous avez donc le hotspot mondial. Et vous avez ici l'homme le plus exposé à la radioactivité de toute l'histoire de l'humanité. Même plus que les travailleurs du nucléaire. Voilà. Il s'appelle Monsieur Taleshi, et quand je l'ai rencontré, donc il a grandi dans cette ville de Ramsar, ce qui est le village le plus radioactif au monde. Il habitait la maison la plus radioactive du monde, et son métier, c'est qu'il était directeur de l'école primaire la plus radioactive du monde. Et il a construit l'école lui-même, quand il était jeune, il avait une vingtaine d'années, avec ses gens du village. Ils ont construit l'école, puis il a été directeur de l'école toute sa vie. Donc il a habité la maison la plus radioactive toute sa vie, dirigé l'école la plus radioactive toute sa vie. Et quand je l'ai rencontré, il avait déjà 20 ans de plus que l'espérance de vie moyenne dans son pays. Donc on ne peut pas dire, en tout cas, qu'il est mort de manière précoce de la radioactivité. Voilà. Donc moi, j'adore faire ces trucs un peu inhabituels, dans des endroits un peu inhabituels. Parce qu'en France, on a fermé des écoles maternelles en région parisienne pour des pouillèmes de genre 1 million de fois plus faibles que tout ça, quoi. Donc j'ai trouvé cette histoire intéressante, et du coup, avec des universitaires iraniens, on avait fait une petite publication qu'on avait publiée dans le journal de Isotope and Environmental Health Studies en 2013, qui raconte que, bien, en fait, les étudiants de l'école primaire les plus radioactifs du monde, ils les ont recherchés, puisqu'il y avait les fichiers, pour étudier leur état de santé. Donc ça concernait de l'ordre de 200 ou 300 élèves qu'ils ont retrouvés, pour voir si ensuite, en grandissant, ils étaient devenus malades ou pas. Et en fait, il s'avère qu'ils sont en tout cas pas plus malades que les autres, et plutôt moins. Et donc on avait fait une petite publication scientifique là-dessus. Voilà. Donc j'ai mesuré dans la maison de M. Taleshi 150 microsieverts par heure dans sa cuisine. Et sur son lit, 30 microsieverts par heure, quand même. Voilà. Et il mangeait les fruits de son jardin potager, qui est sans doute le jardin potager le plus radioactif de la planète aussi, accessoirement. Apparemment, ça lui a plutôt pas mal réussi. Donc c'est juste pour dire qu'il y a une grande marge de manœuvre, en fait, par rapport à la radioactivité naturelle qu'on a en France. On a 0,1 microsieverts par heure en bruit de fond partout, y compris ici, dans cette salle, c'est l'ordre de grandeur. Ça, c'est le taux d'indépendance énergétique de deux pays qu'on compare, la France et l'Italie. Donc jusqu'en 1975, programme nucléaire français, On suivait à peu près la même courbe pour les deux pays. Début du programme nucléaire, l'Italie a fait le choix de ne pas développer son programme nucléaire, alors même qu'ils avaient les meilleurs ingénieurs nucléaires du monde, puisque Enrico Fermi, par exemple, c'est un Italien. Et ils avaient des très bons universitaires sur le nucléaire, mais politiquement, ils ont choisi, ils ont construit des réacteurs nucléaires, ils les ont construits, ils les ont payés, ils les ont jamais fait fonctionner. C'est vraiment idiot, hein. Et donc, ben, ils sont dépendants à plus de 90% de leur énergie aujourd'hui sur de l'énergie importée. Et quand Nord Stream explose, ils se trouvent avec des problèmes économiques encore pires que les nôtres. Déjà, nous, on souffre aussi. Voilà. Et en France, on a fait notre programme nucléaire. Donc, le taux de dépendance énergétique, le taux d'indépendance a augmenté. Le taux de dépendance, ici, a baissé donc de 80% qu'on était dans les années 70 à 50%. Et vous remarquerez une petite chose amusante ici, c'est qu'à un moment donné, les Verts arrivent au gouvernement avec Lionel Jospin en 97, il y avait Dominique Voynet. Donc ils arrivent en 97, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça remonte. Vive les écologistes au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, le programme EPR, qui peine encore à venir aujourd'hui, il aurait dû être fait depuis longtemps. En France, la consommation d'énergie augmente de l'ordre de 1 ou 2% par an depuis 20 ans, et au lieu de construire 20% de capacité en plus, on n'a rien construit du tout. Donc en fait, aujourd'hui, c'est encore monté, c'est un peu plus que ça. Il manque la fin de la courbe qu'il faudrait rajouter, mais on doit être par là aujourd'hui. On a monté un petit peu. On a gardé le socle de base qui reste notre programme nucléaire, mais on n'a pas construit les nouvelles capacités dont on aurait eu besoin et qui auraient permis de ne pas perdre le savoir-faire et de ne pas avoir des délais et des coûts pas possibles sur aujourd'hui où il faut tout recommencer à zéro en construisant un nouveau prototype, en fait. Alors, quelquefois, on vous dira, oui, mais il n'y a pas d'uranium. En fait, il y a plein d'uranium. On est sur une planète où il y a de l'uranium. L'uranium date de l'époque de la formation du système solaire. Alors, le système solaire est né de l'explosion d'une supernova. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'astronomie, mais supernova, c'est les étoiles qui explosent, qui implosent en fin de vie, puis qui re-explosent. Et donc, c'est un bain de radioactivité pas possible. Alors là, vous prenez la grosse dose. Heureusement, on n'y était pas. Et donc, le système solaire d'aujourd'hui, c'est les petites scories radioactives beaucoup plus faibles que ce qu'il y avait au début. Et quand la vie est apparue sur Terre, il y a 2 milliards d'années, le taux de radioactivité était environ 3 à 4 fois plus fort qu'aujourd'hui. Donc, en fait, ça n'a pas empêché la vie d'apparaître. Et on peut même dire que le taux de radioactivité qu'il y a aujourd'hui sur Terre est inférieur à l'optimum pour la santé et pour l'épanouissement de la vie. On revient sur des raisonnements un peu comme au début sur le CO2, là. Quel est le taux de radioactivité optimum pour la santé? Et en fait, les faibles doses, non seulement ne sont pas nuisibles, mais elles sont même utiles. Et donc, le taux de radioactivité qu'on a aujourd'hui dans la nature est un peu trop faible par rapport à ce qui est optimum pour la santé. Donc ça, c'est des choses qu'on savait très bien pendant la première moitié du XXe siècle, et puis qu'on a un peu oublié depuis avec la mode des Verts au gouvernement qui font de la politique. Donc tout Becquerel est devenu diabolisé, radioactif et méchant. Mais en fait, il y a une dose optimale de radioactivité qui est supérieure à celle à laquelle on est soumis aujourd'hui. Après, il ne faut pas en avoir trop non plus. Quand le réacteur fonctionne, il ne faut pas rentrer dedans, quoi. Alors, les réserves d'uranium. Donc, le pétrole et le gaz, on estime qu'il y en avait... Alors, c'était il y a 10 ou 20 ans, ça. Donc, on estime qu'il en reste pour 50 ans. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est encore plus tendu que ce que c'était déjà il y a 20 ans. Ça se tend progressivement. Le charbon, il y en a un peu plus, mais il est encore plus polluant. Et l'uranium, alors ça c'est l'uranium sans retraitement. En France on retraite, bien sûr, donc on estime dans le Red Book que fait l'Agence pour l'énergie nucléaire, l'AEN, ils sortent un Red Book tous les 4 ans, je crois, ou tous les 3-4 ans. Et ce chiffre, il augmente d'année en année, c'est-à-dire 70 ans, c'est ce qu'on disait il y a 20 ans, quand j'ai fait ce transparent. Aujourd'hui, on estime que c'est 100 ans et pas 70, c'est-à-dire que bien qu'on ait consommé de l'uranium pendant 20 ans, le stock a augmenté. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de découvrir des nouvelles sources d'uranium. Donc, on est dans la situation pour l'uranium où était le pétrole en 1920, au Texas. C'est-à-dire qu'on en consommait tous les ans, mais on en découvrait tellement que chaque année, ce qu'on découvrait dépassait ce qu'on consommait. Donc, on est encore dans cette période préhistorique de la découverte d'une ressource minérale pour ce qui concerne l'uranium. Donc, ce chiffre, il augmente au lieu de diminuer. Et en fait, ça, c'est sans retraitement, puis ça dépend du type d'uranium dont on parle. Ça, c'est pour l'uranium qu'on va chercher dans les mines. Maintenant, il y a de l'uranium qu'on appelle secondaire, qui viennent d'une exploitation d'autre chose. Par exemple, au Maroc, on produit beaucoup d'engrais, des phosphates. Et en fait, l'uranium, c'est un sous-produit de la production des phosphates. Qui aujourd'hui, cet uranium qui est dans les phosphates, on s'en sert pas. On considère que c'est un déchet et puis il reste, ça fait des stérings miniers, des espèces de montagnes de déchets qui s'accumulent près de la mine. Et on ne l'exploite pas. Mais on pourrait très bien l'exploiter dans des conditions économiques correctes. Et à ce moment-là, juste en rajoutant les phosphates, on passe de 70 à 400. Extraordinaire. Voilà. Voire supérieur à 500 si on rajoute encore d'autres choses. Et puis ça dépend ensuite si on brûle ou pas le MOX comme on fait en France dans nos réacteurs, auquel cas c'est plus 400 mais c'est 500 parce qu'on brûle mieux, plus efficacement notre uranium. Et puis si on rajoute le retraitement, eh ben, on multiplie tout par quelque chose entre 30 et 100, disons par 50 pour simplifier. Donc au lieu d'être avec 500, ben, 500 fois 50, vous vous retrouvez à 25 000 ans, vous êtes en dizaines de millénaires, quoi. Donc on n'est pas prêt de manquer d'uranium. C'est la réponse, et particulièrement en France, où on a enrichi l'uranium pour tout le monde et on a gardé l'uranium appauvri. Ce qui est très malin. Parce que c'est les autres qui payent, et c'est nous qui gardons le stock stratégique pour demain. Les risques d'accident, alors bien sûr, quand on a une centrale de 1000 MW entre les mains, il faut quand même être prudent en conduisant, c'est comme quand on conduit sa voiture. Donc il y a des risques, mais toute énergie comporte des risques. Là, vous avez des éoliennes qui tombent, là, vous avez des barrages. C'est mal passé, c'était en France, et il y a eu 423 morts. Ça s'est mal passé, c'est ça. C'était dans les montagnes au-dessus de Fréjus. Un barrage qui a claqué, le géologue s'était trompé, il avait sous-estimé, il s'était trompé sur les couches géologiques. Voilà. Et en moyenne, ça fait des centaines de morts par an dans le monde, hein, l'énergie hydraulique, donc beaucoup plus que le nucléaire, sauf que ça gêne personne apparemment. Il y a eu dans une rupture de barrage en Inde, c'est à Morvi, je crois, en Inde, c'était de l'ordre de 30 000 morts, je crois, d'un coup, avec une rupture de barrage comme ça. Le barrage des Trois Gorges en Chine, si jamais il lâche, c'est des millions de morts qui habitent en dessous et qui seront balayés par le tsunami. Voilà, là, c'était une explosion de gaz en Belgique en juillet 2004. Tout le monde a oublié, ça fait 22 morts, hein, c'est-à-dire presque autant qu'à Tchernobyl. Tout le monde se souvient de Tchernobyl, mais pas de l'explosion de morts en Belgique. Voilà. Là, il y a une explosion de vapeur dans un bateau sur le Mississippi en 1865. Alors, c'est juste pour expliquer qu'il faut être prudent. Alors là, ils avaient des marins sur les bateaux à vapeur. Et pour aller plus vite, les marins étaient toujours pressés de rentrer chez eux. C'est un peu comme les conducteurs de bus. Non. Ils avaient une soupape de sécurité. Et donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils attachaient la soupape de sécurité. Parce que comme ça, ils pouvaient monter la pression un peu plus et ils arrivaient à domicile plus vite. Et sauf qu'un jour, ils ont monté la pression un peu trop. Le bateau a explosé et tout le monde est mort noyé. Donc il faut être prudent et quand il y a des procédures, il faut quand même appliquer les procédures. Concept de base de la sûreté nucléaire, donc ce concept de base il est très simple, c'est qu'on est super prudent dans le nucléaire. On est même plus prudent que prudent et en tout cas plus prudent que les autres. On est tellement prudent qu'il y a des systèmes de sécurité qui sont multiples, c'est-à-dire quand il y a un système de sécurité, il n'y en a pas qu'un. Il y en a toujours deux, trois, quatre, cinq qui remplissent la même fonction. Pour que si le premier ne marche pas, il reste le deuxième. Si le deuxième ne marche pas aussi, il reste le troisième. Donc, c'est multiple et redondant et multiniveau. C'est-à-dire, par exemple, pour séparer le combustible, la radioactivité qui serait dangereuse de l'environnement, ici, on a trois barrières successives. Il y a la gaine du combustible, qui est du zirconium, 1 mm d'épaisseur, de la gaine d'un métal. Mais au cas où on perd le contrôle et où ça chauffe trop, elle peut fondre. À partir de 1500 degrés. D'habitude, on exploite le réacteur à 320 degrés à peu près. Donc à 1500 degrés, ça va fondre. Donc à ce moment-là, on a la cuve du réacteur qui fait 10 ou 20 cm d'acier d'épaisseur. C'est épais, c'est solide, c'est bien soudé, et c'est à Saint-Marcel qu'on fabrique. Mais si jamais on perd le contrôle, qu'il y a trop de pression, que le réacteur explose dans le pire des cas, en France, c'est jamais arrivé. Hein. Mais ça peut-être. Eh bien, on a l'enceinte de confinement autour, avec un mètre de béton armé d'épaisseur, et dans les nouveaux réacteurs, on en met deux, on met une enceinte autour de l'enceinte. Donc, vous avez deux fois un mètre de béton armé d'épaisseur. Donc, c'est ce qu'on appelle la sécurité multiniveau, redondante, avec la discipline, la culture de sûreté, donc on apprend aux gens qu'il faut être prudent. Donc c'est comme si sur une voiture, vous mettez triple ceinture de sécurité, vous formez le conducteur il est prudent, quadruple pare-choc, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'accident. La preuve, c'est qu'il y en a quand même eu, puisque c'est un grand principe dans la nature. Toute catastrophe qui peut arriver, arrivera un jour. Il suffit d'attendre assez longtemps. Donc, effectivement, on a eu... Alors, on va étudier plusieurs accidents, mais celui-là est intéressant parce que c'est le pire des accidents. Là, on a fait tout faux. On a fait vraiment exprès de provoquer le pire accident qui puisse arriver. Avec un réacteur qui n'avait pas d'enceinte de confinement, qui était instable, qui avait des systèmes de sécurité, mais on leur a demandé, comme le réacteur était instable dans certains paramètres, ils ont fait une expérience qui était interdite. Et ils ont dit, on va faire l'expérience, pourquoi ? Pour voir ce qui se passe quand on fait ça. Donc ils ont vu. Voilà. Et donc ça consistait à débrancher 6 systèmes de sécurité différents dont chacun des 6 aurait suffi pour arrêter le réacteur et éviter l'incident. Voilà. Mais ils ont débranché tous les systèmes pour faire une expérience interdite sur un réacteur instable et qui n'avait pas d'enceinte de confinement. Donc ils ont vu. Donc la moitié du contenu radioactif du cœur est parti dans l'atmosphère, c'est-à-dire presque tout, parce que c'est impossible d'envoyer 100% du cœur, même en faisant exprès, même avec un gros incendie. Et la plupart, il va toujours rester sur place. Ils ont quand même envoyé, avec un gros incendie, la moitié du cœur radioactif dans l'atmosphère. Donc c'est l'accident le pire. Il y a eu une quarantaine de morts. Quand vous lisez les journaux, on vous dit des millions, mais en fait, ça, c'est du baratin. C'est des morts théoriques, ce que vous lisez dans les journaux. En fait, ils n'existent pas. Voilà. Et le tabac qui fait 6 millions de morts par an dans le monde, c'est l'équivalent de 300 Tchernobyl par jour. Et quand on parle de risque, on parle tout le temps de Tchernobyl comme étant la référence. On ferait mieux de s'occuper du tabac et de l'alcool et de la nourriture. Donc c'est un Tchernobyl toutes les 4 minutes, hein, le tabac. Et la nourriture, c'est encore pire. Voilà. Donc, autre accident sur un réacteur de type occidental, similaire à ceux qu'on a en France, c'est nos réacteurs de 900 MW, c'est Three Mile Island aux États-Unis, 1979. Ils ont perdu le réacteur. Le réacteur a fondu, donc la première gaine de combustible, ça a fondu, les 1500 degrés ont été atteints. Le réacteur a fondu aussi, donc ça s'est écoulé, mais il y avait l'enceinte de confinement. Donc rien n'est sorti dans l'environnement. Zéro mort, zéro irradié. Par contre, un gros big ramdam dans les médias. Donc ça, c'est l'accident qu'on est susceptible d'avoir en France. Pourquoi ? Parce que simplement, on a les mêmes réacteurs. Parce que le réacteur, eh ben, il peut arriver que les procédures ne soient pas respectées ou que, comme là-bas, on ne comprenne pas ce qui se passe et on appuie sur le mauvais bouton et on aggrave la situation. En Russie, ils ont fait exprès de provoquer l'accident. C'était pire. Aux États-Unis, ils n'ont pas fait exprès. Ils ont vu une situation anormale. Ils ont voulu résoudre cette situation anormale avec les procédures qu'ils avaient. Et en fait, ils se sont trompés de bouton. Ils n'ont pas compris ce qui se passait parce qu'ils avaient, dans une salle de conduite de centrale nucléaire, vous avez plein d'écrans partout. Et la manière dont c'était conçu à l'époque, il n'y avait pas suffisamment de distinction entre les voyants importants et les voyants pas importants. Donc quand ils ont eu le premier gros accident, c'était celui-là, là, ça clignotait comme un sapin de Noël. Il y avait 3000 lumières qui clignotaient dans la salle de commande. Tout s'est mis à clignoter en même temps. Du coup, les opérateurs comprenaient plus très bien ce qui se passait. Ils ont paniqué et ils n'ont pas bien interprété. Ils n'ont pas compris la situation et ils ont voulu mettre le réacteur en sécurité en appuyant sur les boutons. Sauf que comme ils n'avaient pas bien compris, ils ont aggravé le problème et provoqué la fonte du réacteur en croyant le mettre en sécurité. Voilà. Donc depuis, on a changé toute la présentation des salles de commande dans le monde entier pour que maintenant, en cas d'accident grave, on quitte la salle de commande normale et il y a un petit coin avec les trucs importants. Et si on comprend plus ce qui se passe sur la salle de commande habituelle, on va sur le petit coin et là, on ne gère plus que ça. Et puis, il y a plus d'automatismes qui font que c'est mieux géré aussi. Voilà. Donc, c'était un réacteur à eau sous pression, comme les nôtres, avec enceinte de confinement, pas de graphite. Le graphite, c'est du charbon inflammable. Voilà. Et le charbon, ça fait quand même 10 000 morts par an. C'est un Tchernobyl tous les 3 jours. Voilà. Fukushima. Donc là, c'est encore autre chose. C'est le tsunami qui dépasse toutes les prévisions historiques qui étaient prévues. Ils ne pensaient pas qu'il puisse y avoir un tsunami de 15 mètres de haut à Fukushima. Moi, j'ai été 4 fois au Japon. J'ai passé 10 jours à chaque fois à rencontrer toutes les personnalités nucléaires au Japon, à visiter toutes leurs installations. Et au début, j'étais... j'ai pas compris. Parce que j'avais, avant Fukushima, en 2003, mes voyages, c'était 2003, 2004, 2006. Donc c'était presque 10 ans avant. J'ai rencontré tous les dirigeants de la sûreté nucléaire japonaise, personnellement. Et puis ils m'ont invité dans leur petit château à Tokyo pour des repas où on discute pendant 3 heures, etc. Et je les avais passés sur le grill pour voir s'ils étaient bons ou pas bons. J'étais arrivé à la conclusion qu'ils étaient bons et qu'ils avaient une conscience de sûreté. Et donc moi, pour moi, ça craignait pas trop au Japon, quoi. Et donc quand j'ai vu Fukushima, j'étais sidéré. Pendant une semaine, j'en croyais pas mes oreilles, quoi. J'essayais de comprendre. Et puis en même temps, j'étais interviewé par toutes les télés pour expliquer ce qui se passait. Et en fait, j'ai mis une semaine à comprendre. C'est qu'il y a deux grands risques au Japon. Les tsunamis et les tremblements de terre. Les tremblements de terre, ils en ont 15 par semaine. Il y en a tous les jours. Donc on connaît extrêmement bien la courbe du risque, la nature du risque, etc., parce qu'on fait des observations tous les jours sur les tremblements de terre au Japon. Alors bien sûr, celui-là était plus fort que le tremblement de terre qu'on a d'habitude, mais malgré tout, ils savent qu'il y a des coefficients de sécurité, ils connaissent la courbe de distribution, etc. Le tsunami, en fait, quand j'ai visité le Japon, on m'a fait visiter des endroits de tsunami. Par exemple, le temple bouddhiste qui est à côté de Tokyo, dans la banlieue de Tokyo. Et là, on vous explique que c'était en 1896, l'année de la découverte de la radioactivité, il y a eu un tsunami historique qui remontait, et on vous montre, c'est remonté jusqu'au pied de la statue du Bouddha, parce que le Bouddha a arrêté le tsunami. Le grand Bouddha. Et c'est très très loin de la côte. On se dit, putain, c'est venu jusque-là, c'est impressionnant. Voilà, c'est impressionnant. Et donc, je me suis souvenu à ce moment-là de cette histoire du Bouddha, et en fait, le dernier grand tsunami qu'ils ont eu, c'était 1896, en fait. Donc les meilleurs spécialistes du tsunami au monde, c'est les professeurs japonais de l'université de Tokyo et des différentes grandes villes japonaises, parce que c'est eux qui ont le plus observé les tsunamis. Mais en fait, aucun de ces grands professeurs n'a vu un tsunami de son vivant. Donc ils étudient le tsunami sur les papiers historiques qui datent de l'époque des samouraïs. Donc il y a très peu d'observations et une connaissance très lacunaire des tsunamis. Et à l'endroit où la centrale de Fukushima a été construite, ils pensaient que le tsunami historique maximum, c'était 5 mètres. Parce qu'ils avaient une erreur dans la conception mentale des tsunamis. Ils pensaient que la hauteur d'un tsunami dépend de la forme de la baie et de la forme des fonds sous-marins. Ça a l'air simple hein, quand je vous l'explique, mais en fait, j'ai mis longtemps à le comprendre et très peu de gens l'ont encore compris, même aujourd'hui. Donc eux pensaient que la hauteur des tsunamis dépendait de la forme de la baie, quoi. C'est-à-dire que si on a un fond qui remonte tout doucement, ben la vague elle va remonter plus haut du coup, si la rampe est douce. Et puis que s'il y a une rampe en demi-cercle, comme c'est le cas à Tokyo, eh bien le tsunami va remonter plus haut. Et en fait, c'était faux. Mais ils ne s'en sont rendus compte qu'au moment du grand tsunami de Banda Aceh, qui est venu en 2000... C'est ça. En Malaisie, oui. C'est ça. Et donc là, ça a brutalement changé, mais c'était après la construction des centrales nucléaires. Et donc finalement, il peut y avoir des tremblements, des gros tsunamis de 15 mètres de haut à différents endroits, notamment sur les zones sismiques, bien sûr. Et donc, il ne pensait pas que c'était possible à Fukushima. Et il commençait à s'en rendre compte, à tel point que 2 mois avant l'accident de Fukushima, il y a eu un grand congrès qui s'intitulait « Évaluation du risque, des risques forts de tsunamis et tremblements de terre » qui avait lieu à Fukushima, qui rassemblait les spécialistes du nucléaire mondial. Et ils essayaient de voir comment aborder ça sous des nouveaux angles, quoi. Et puis 2 mois après, boum. Voilà. Donc depuis, on a révisé les connaissances sur les tsunamis. Donc par exemple, pour la centrale de la centrale de Gravelines, où on va construire une paire de PR. Il fait partie des 6, il y a 3 paires de PR qui vont être construites, Bugey, Gravelines et puis Flamanville. Donc il y en a 2 qui seront à Gravelines, et donc la plateforme va être rehaussée par rapport à la plateforme actuelle, où il y avait déjà au-dessus des plus grandes marées, avec une possibilité de tsunami, avec un coefficient de sécurité, ils avaient rajouté encore 2 mètres, mais là on va remettre encore 5 mètres de plus. Voilà, exactement. Mais au Blayais, on a failli avoir des gros pépins au Blayais en 99 avec la tempête, où il y avait plusieurs mètres d'eau partout. Hein. Il y avait jusqu'à 17 mètres d'eau dans les souterrains de la centrale où il y avait des pompes de sécurité en bas. Mais le gars qui avait fait la sûreté, c'était mon prof de nucléaire à l'ENSTA, puisque je suis ingénieur en génie nucléaire, donc j'avais comme prof un gars super qui s'appelle André Gouvenet. Et quand ils avaient construit le Blayais, il avait dit les 4 pompes de sécurité, vous ne mettez pas les quatre en bas. Vous en mettez deux en bas et deux en haut. Au cas où, on ne sait jamais. Bon, ben, ça a évité d'avoir une fusion de cœur au Braillet en 99. Donc ça a été mieux fait en France qu'ailleurs, si vous voulez en résumer. Ça ne veut pas dire que les risques n'existent pas. Mais si on avait un accident, il serait probablement du type Sruma et Lagrande. C'est-à-dire hystérie dans les médias. Et finalement, quand on fait le compte des comptes des morts et des blessés, l'esprit un peu calmé un peu plus tard, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas tant que ça, quoi. Donc on a révisé les connaissances sur les tsunamis, on a fait des stress tests, on a amélioré la sûreté dans les autres pays, on a remis des pompes et des diesels de sécurité, si possible en hauteur, etc. Suite à ça. Et puis depuis, il y a eu encore Zaporijjia, donc c'est encore autre chose. Donc Zaporijjia, il se trouve que je connais très bien le sujet. Ok, le temps passe, oui, je suis bavard quand je commence. Donc Zaporijjia, ça a fait basculer ma vie, moi, Zaporijjia. Parce que août 2022, donc il y a 2 ans, j'étais parti en vacances au mois de juillet, je rentre chez moi début août, et puis Darius Rochebain, qui travaille sur LCI, m'appelle et me dit « Est-ce que vous pouvez venir ce soir hein ?» Parce qu'on va parler de Zaporijjia. Je ne connaissais pas Zaporijjia. J'avais visité les réacteurs qui sont les mêmes, mais en Russie. Donc je lui réponds ça. Il me dit « Très bien, venez, venez. » En fait, ils n'avaient pas d'autres experts nucléaires disponibles qui connaissent Zaporijjia pour parler de Zaporijjia au moment où les Russes commençaient à canarder partout sur la centrale de Zaporijjia. Et donc depuis, je passe 2, 3, 4, 5, 6, quelquefois 10 fois par semaine sur LCI pour donner les dernières infos sur le nucléaire et sur Zaporijjia. Et donc vous m'avez peut-être déjà vu sur, aux infos nucléaires sur LCI. Ça m'arrive chaque fois que je suis devenu monsieur nucléaire sur LCI depuis. Donc j'ai fait 120 interventions donc depuis 2 ans. À chaque fois entre 5-10 minutes et puis 40 minutes maximum en plateau. Une fois sur deux, c'est par Skype ou en plateau. Donc je connais tous les journalistes. Donc c'est juste pour vous dire que Zaporijjia a changé ma vie en ce sens que ça m'a rajouté pas mal de stress sur mon emploi du temps quotidien. C'est tout du bénévolat, donc malheureusement c'est pas payé, sinon je serais riche avec toutes les interviews que j'ai données. Mais c'est absolument fascinant sur le plan de ce qui s'y est passé, sur le plan nucléaire. Parce que moi, j'ai appris le nucléaire à l'ENSTA, l'École nationale supérieure technique avancée. J'avais comme prof André Gauvenet. Il s'est passé à Zaporijjia un paquet de trucs qui n'étaient pas du tout prévus et qu'on ne m'avait pas appris dans mes études, quoi. Donc, sur le même site, on a eu une centrale bombardée par des militaires. Donc, déjà, ça, c'est un peu nouveau. Une prise de pouvoir dans la centrale où on vire tout le staff qui existe pour que les assaillants prennent le contrôle de la centrale, à coups de mitraillette, quand même. Donc c'est un peu nouveau comme concept d'exploitation d'une centrale nucléaire. On n'avait jamais vu ça, quoi. Le personnel a été, pour certains, torturé, voire exécuté, quelquefois devant les collègues, pour qu'ils obéissent, avec des familles prises en otage. Donc après, vous obéissez quand c'est vos enfants derrière. Voilà. Il y a eu l'alimentation électrique de la centrale a été bombardée, neutralisée, les lignes sont tombées, pas une fois, deux fois, trois fois, mais des dizaines de fois. Il se trouve que comme c'est les Russes, ils étaient déjà très prudents, ils avaient mis il y a 6 lignes de 750 000 volts et 3 lignes de 300 000 volts, je crois. Ils en ont beaucoup, c'est plus redondant que chez nous encore, parce qu'ils ont l'habitude des guerres un peu, les Russes, ils se méfient. Donc ils mettent toujours plus de tuyaux et plus de lignes par rapport à chez nous. Donc, perte d'alimentation électrique répétitive. Encore mieux, quand le barrage a explosé, perte de la source froide. C'est une centrale nucléaire qu'on ne peut plus refroidir. Ça, c'est assez nouveau aussi comme concept. En France, on n'a pas encore vu. Hein. C'est comme si, au Braillet, il n'y avait plus la mer. On enlève l'océan. Ça fait drôle, quand même, quand on est dans une centrale. Il faut refroidir le réacteur. Donc, on a perdu la source froide. Il y a eu des incendies à plusieurs reprises. Donc, des exécutions, etc. Et alors, malgré tout ça, eh bien, la centrale elle est toujours là, il n'y a toujours pas eu de rejet de radioactivité. Il n'y a même pas eu de blessés, ni de morts, ni même d'exposés à la radioactivité à une dose anormale. Et si ce n'était pas pour l'histoire du barrage qui a sauté, donc on n'est pas prêt de la redémarrer, parce qu'il faudrait déjà reconstruire le barrage, il y en a déjà pour 10 ou 15 ans. Hein. Je pense qu'ils vont redémarrer quand la guerre sera finie. Mais si ce n'était pas pour l'histoire du barrage, la centrale elle peut redémarrer demain matin. Malgré cet amoncellement de choses inédites, incroyables, extraordinaires, non prévues, qui fait que je suis intervenu une bonne centaine de fois dans les médias pour commenter l'événement. Donc on en parle beaucoup, mais finalement la centrale est encore là. est encore en état. Donc c'est une saga tout à fait inédite. Alors on va passer assez vite parce que le temps est limité. Vous voyez qu'il est quand même tombé des obus, ça c'est le toit de la centrale. Hein. Alors pas l'enceinte de confinement, c'est une sac de stockage du combustible, mais enfin quand même. Voilà. Ça c'était les premiers jours où ils arrivaient avec les tanks et ils ont envahi de nuit et ils tiraient des fusées éclairantes pour voir où ils allaient avec les tanks, quoi. Et ils ont bombardé ce soir-là le centre de formation. C'était plus pour intimider les Ukrainiens pour qu'ils obéissent. Donc ils ont démoli un bâtiment pour montrer que c'était sérieux, qu'ils arrivaient, que c'était eux les chefs maintenant. Donc ça, c'est pas des obus, c'est des fusées éclairantes. Il n'y a pas longtemps, ils ont brûlé l'aéro-réfrigérant. Ils ont fait un grand feu, comme un grand barbecue, en bas de l'aéro-réfrigérant aussi. Alors chacun dit que c'est l'autre. Très souvent, hein, dès qu'il y a une bombe qui tombe, ils disent tous que c'est l'autre, quel gros méchant. Et en fait, quand on rentre dans les détails, quelquefois c'est les Russes, mais quelquefois c'est les Ukrainiens. Il y en a des deux côtés. Ça, c'est le barrage quand il a sauté. Ça, c'était le lac avant et le lac après, quoi. Il n'y a plus d'eau. Voilà, donc l'attentat terroriste. Ça, c'est pour comprendre. Là, vous avez la centrale de Gravelines, justement, qui est la plus grosse centrale nucléaire en France. La deuxième plus grosse en Europe, après celle de Zaporijja. Et on va rajouter deux EPR, donc ça deviendra la plus grosse en Europe. Là, vous avez l'immeuble du World Trade Center où il y a eu l'attentat avec l'avion qui est tapé sur le côté. Ben, vous voyez bien que si c'était le réacteur, en fait, l'avion aurait tapé à côté du réacteur. C'est pas très facile de viser un réacteur nucléaire avec un avion de ligne en piqué. C'est pas fait pour faire des piquets, déjà, les avions de ligne. Ça vole presque à l'horizontale. Voilà. Donc c'est une cible pas très facile à viser. Et puis, ben, même s'il tape le réacteur, c'est une grosse enceinte en béton. Pas si facile que ça à casser non plus. Donc quand on regarde, c'est l'énergie qui tue le moins, le nucléaire ici. Vous avez moins d'accidents que dans les autres énergies et vous avez très peu de décès, en fait, par accident et par kilowattheure produit. Voilà. En Inde, 30 000 morts en 1979. Voilà. On a le réacteur d'aujourd'hui, donc ici c'est une maquette de l'EPR. Donc ce qu'on appelle réacteur à eau sous pression. Vous avez l'équivalent américain, canadien, Advanced Canadian Reactor, Candu Reactor, le chinois. On parle beaucoup maintenant des petits réacteurs nucléaires.
On va avoir une conférence la semaine prochaine.
D'accord, alors je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Je pense que pour le monde, ça peut servir dans certains marchés, sur des marchés de niche en fait. Sur les îles, on pourra en mettre en Corse, soit Tahiti, dans le Grand Nord, au Groenland ou dans des coins comme ça. Je ne pense pas que ça ait de futur en Europe, parce que ça coûtera toujours moins cher de faire un gros réacteur, il y a un facteur d'échelle pour amortir les frais fixes, c'est toujours moins cher de faire un réacteur plus gros. Mais c'est devenu la mode de dire on va faire des petits réacteurs nucléaires. Voilà, vous avez le réacteur de génération 4, donc ça ce sont des technologies différentes qui permettent d'utiliser jusqu'à 100 fois mieux le combustible et de produire moins de déchets. Voilà. Maintenant, le plan 100 gigawatts de la EPN, donc ça consiste à monter de 63 gigawatts aujourd'hui à 100 gigawatts, la puissance nucléaire en France, parce que ça, c'est le parc électrique français installé en 2018, donc il y a surtout beaucoup de nucléaire, un peu d'hydraulique, d'éolien, de gaz, de solaire, du fioul, du charbon. On voit que tout le reste est relativement marginal, à part le nucléaire et l'hydraulique. Surtout que ça produit pas, ça peut produire quand on a besoin, mais tout le reste, ça ne produit pas forcément quand on a besoin, sauf le gaz et le charbon. Charbon, on a arrêté depuis. Voilà. Donc, on a aujourd'hui en gaz, fioul et charbon, encore, on avait 20 gigawatts, plus les 63 gigawatts de nucléaire qu'on a déjà. Ça veut dire que juste pour remplacer gaz, fioul et charbon, il faudrait monter à 80 gigawatts au total. Donc, ça, c'est le minimum en supposant qu'on ne consomme pas plus qu'à cette époque-là, qu'aujourd'hui. Quoi. Voilà. Donc, si on fait 80 gigawatts de nucléaire, on résout le problème de l'élimination des combustibles carbonés. Mais si on veut faire les nouveaux usages, il faut monter à 100. Voilà. Donc, ce que propose la EPN, c'est d'électrifier les transports, d'électrifier le chauffage et le chaude sanitaire, augmenter le parc nucléaire et mieux isoler les logements. Il y a un plan en 4 points. Et si on n'en fait qu'un seul, c'est d'augmenter le parc nucléaire. C'est ça qui est le plus important. Donc, pour une France zéro carbone, eh ben, il faut quelques EPR en plus. Il y avait des histoires de lois à changer. Alors la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, la LTECV, C'est déjà plus ou moins fait, puisque cette loi prévoyait qu'on ne pouvait pas monter au-delà de 63 gigawatts. Je crois que ça a sauté, cet article-là. Et puis que la baisse à 50% de l'électricité qui doit être nucléaire, ça a sauté aussi. Donc maintenant, on peut rester au niveau où on est, qui est plus proche de 70-80%. Voilà, donc il y a un scénario bas, un scénario haut, ça se joue entre 80 et 100 gigawatts. Donc le plus simple, c'est de remplacer tous les réacteurs qu'on a au fur et à mesure qu'ils arrivent en fin de vie, chacun par un EPR, ce qui fait que ça augmentera un petit peu la puissance disponible pour arriver aux 100 gigawatts dont on a besoin à la fin du remplacement du parc. Ce qui est très important, c'est le calendrier, c'est qu'il faut commencer vite. Parce que si on attend que nos réacteurs soient en fin de vie pour commencer à la remplacer, on est foutu, on est en délai, on n'aura pas le temps de construire le nouveau avant. Donc c'est pour ça qu'on a agrandi l'usine. Voilà. Quelques mots sur l'AEPN, donc Association des écologistes pour le nucléaire, qui rassemble 16 000 membres et signataires dans 65 pays. Donc j'ai créé cette association moi-même en 1996, donc ça fait maintenant presque 30 ans. Et le but, c'est d'informer le public sur l'énergie et l'environnement, comme je le fais avec vous aujourd'hui. Attends, j'ai pas tout à fait fini, encore. Laisse-moi encore 3 minutes, là. Donc on a un site internet qui s'appelle www.ecolo.org. Ça, c'est mon livre « Nucléaire, avenir de l'écologie ». Là, vous avez James Lovelock, un vieux monsieur formidable qui est mort à l'âge de plus de 100 ans. Il est mort il y a 2 ans. C'était un bon ami. C'est lui qui a inventé l'écologie internationale sur la planète dans les années 60. Il a inventé le détecteur à capture d'électrons, qui est le capteur qu'on trouve dans tous les spectromètres de masse, pour ceux qui ont une connaissance un peu scientifique. Donc c'est un grand chimiste au départ, un grand physicien. Il est docteur honoris causa, membre de l'Académie des sciences, etc., en Grande-Bretagne. Et il a toute sa vie fait des théories sur Gaïa. Il s'est rendu célèbre comme ça. Mais c'est surtout un grand chimiste et un grand physicien initialement. Et donc, il dit que l'énergie nucléaire, c'est la seule solution écologique. Quand on cherche qui est le père historique de l'écologie sur la planète, eh bien, c'est lui qui a défini la pensée écologique dans les années 60 et 70. Voilà. Il est membre de l'AEPN, enfin il était, puisqu'il est décédé maintenant, et c'est un bon copain. Quand il venait en France, il habitait chez moi, et quand j'allais en Grande-Bretagne, j'allais chez lui. Quoi. Grand monsieur. Hein. Voilà. Ici, vous avez Patrick Moore, donc, fondateur de Greenpeace en 1971, donc, qui est président d'honneur de FN. FN, c'est l'AEPN en anglais, Environmentalists for Nuclear. Donc Patrick Moore est président d'honneur de FN Canada, il est tout à fait pro-nucléaire, donc membre de l'AEPN. Et pareil, quand je vais au Canada, je vais chez lui, quand il vient en France, il vient chez moi. Un gars super, lui il a inventé les fermes de saumon biologique. Et c'est un grand spécialiste de l'écologie de la forêt, il a fait la première thèse sur l'écologie forestière à l'université de Vancouver, au début des années 70. En même temps qu'il créait Greenpeace, il était étudiant en train de passer sa thèse. Et il était sur le premier bateau de la première manifestation de Greenpeace contre la bombe atomique américaine en Alaska. C'est lui qui était au moteur sur le bateau. Parce qu'en fait, Greenpeace, au tout début, en 1971, il n'y avait personne qui avait la moindre connaissance scientifique, c'était que des allumés, et il n'y avait personne qui savait conduire un bateau. Et donc lui, au départ, c'était le seul qui savait conduire un bateau et qui, en plus, savait parler sans dire trop de bêtises au point scientifique. Et donc aujourd'hui, c'est le seul qui est encore vivant aussi. Les autres, ils sont tous morts entre-temps. Et il a été 15 ans directeur international de Greenpeace. C'est lui, vous vous souvenez peut-être d'une autre qui est très âgée, c'est Brigitte Bardot, qui est encore vivante, mais très âgée. Brigitte Bardot et l'histoire des bébés phoques, qui avait fait la couverture de Paris Match à la fin des années 70. Et bien c'est lui qui avait affrété l'hélicoptère pour amener Brigitte Bardot au pôle Nord et qui avait mis le bébé phoque dans les bras de Brigitte Bardot, et c'est lui qui avait pris la photo. Voilà, c'est un grand monsieur de l'écologie, en fait, Patrick Moore. Hein. Ouais. Alors, Yumi Akimoto, donc Patrick Moore, il m'a fait, les deux, James Lovelock et Patrick Moore, ils m'ont fait une préface pour mon livre, pour l'édition anglaise. Et Yumi Akimoto, il m'a fait la préface pour mon livre en édition japonaise. Lui, c'est un survivant d'Hiroshima. C'est intéressant aussi. Hein. Donc, quand j'étais au Japon, j'ai demandé de visiter le musée d'Hiroshima, de rencontrer les survivants d'Hiroshima. Je leur ai fait une conférence sur le nucléaire, pour leur expliquer les bienfaits de l'énergie nucléaire civile, parce que militaire, c'est pas pareil. Voilà. Et donc, on voit qu'il y a des écologistes pro-nucléaires, c'est pas juste moi et mes copains de l'AEPN. En fait, il y a les plus grands écologistes de la planète sont des pro-nucléaires. En France, par exemple, on en a un autre, c'est Brice Lalonde. Alors, c'est un peu moi qui l'ai converti, parce qu'avant, il était contre. Mais après, quand j'ai été directeur énergie de Génération Écologie, ça, c'était début des années 90, fin des années 80, et en parlant avec lui, il a compris, en fait. Et maintenant, il est tout à fait pro-nucléaire. Il est toujours vivant, lui aussi. Voilà. Donc, il existe des écologistes pro-nucléaires. Ce n'est pas des allumés, en fait, c'est les écologistes intelligents. Donc, je vous invite à rejoindre notre mouvement bénéfique pour la santé et pour la planète. On n'a qu'une planète, il faut la léguer à nos enfants en bon état, et pour préserver notre planète et pour vivre heureux et avec un mode de vie correct, eh bien, on a un grand besoin d'énergie nucléaire parce que c'est propre et respectueux de l'environnement. Donc, je vous remercie et merci beaucoup. J'ai été un peu plus vite à la fin parce que je suis toujours très bavard. Il faut m'excuser.
Oui, on a tous plus ou moins des choses à faire. C'est également mon cas. Donc quelqu'un va raccompagner notre ami Bruno là au train là. Merci beaucoup, bien sûr. Et puis je pense qu'on reste en contact et on aura d'autres aventures visiteuses puisque je lui ai mis un peu l'eau à la bouche avec les quelques visites qu'on a pu faire aujourd'hui. Et donc, ce sera un bon prétexte pour hameçonner notre grand spécialiste et l'attirer dans les filets chalonnais. Voilà. Merci beaucoup. Allez, bonsoir.
Merci à vous.